Nous avons le plaisir de commencer l'après-midi avec une intervention de M. André De Herde sur l'architecture climatique et l'architecture durable. Donc voilà, on a le plaisir de vous entendre. Vous êtes professeur ordinaire au département architecture et urbanisme, non, architecture, à l'école polytechnique de Louvain-la-Neuve. Hein, c'est ça ?
Merci beaucoup. Donc bon après-midi à chacun d'entre vous, Madame la Présidente, et merci aux organisateurs de ces deux journées de m'avoir invité à être parmi vous cet après-midi, ça me fait plaisir. On va redescendre sur Terre puisqu'on va non plus parler du climat en tant que tel, mais une des causes de la dégradation du climat dans lequel on se trouve, puisque les bâtiments en sont pour 30 à 40% la cause. Et donc, je vais vous parler d'architecture. J'ai commencé par l'architecture climatique pour arriver à l'architecture durable, en vous faisant une proposition de définition de l'architecture durable, je dirais, qui est celle de l'équipe de recherche architecture et climat. Alors, l'architecture climatique, c'est la suite des crises de l'énergie. À cette époque-là, la question s'est posée de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette question-là. Il fallait économiser absolument de l'énergie. Et la réponse partout a été simpliste, en disant il suffit de mettre 5 cm d'isolant dans les murs, il suffit de mettre des panneaux solaires dans la toiture, et le problème est résolu. Éventuellement, si la toiture est en tuile, c'est un peu plus compliqué que si c'est une autre toiture, mais sinon, voilà, le problème est résolu. Et nous avons, à ce moment-là, constaté une série d'architectures de ce type-ci, peu importe, vous connaissez en tous les cas ici la fameuse maison solaire à Odeo avec le mur trombe, avec tout le respect qu'on doit avoir pour cette maison qui était expérimentale et qui était pionnière. Mais au fait, on arrive à une architecture qui, simplement, ne change rien. Rien n'a changé dans l'architecture. On est simplement venu rajouter des choses à l'architecture. Et ici, le paradoxe, c'est qu'on vient rajouter un mur tout noir alors qu'on est orienté plein sud. La seule partie vitrée, c'est la partie avec la terrasse. Donc nous nous sommes dit, c'est une mauvaise réponse. Ça ne peut pas être la réponse. Et ça ne peut pas être la réponse parce que à aucun moment l'architecte va, au fait, intégrer la question de l'énergie dans son architecture. Et donc vous comprenez déjà que je vais essayer de défendre le point de vue que tout se joue d'abord dans la conception architecturale et dans la construction architecturale. Donc d'une part l'agencement des espaces les uns par rapport aux autres, et d'autre part les matériaux qu'on va utiliser, comment on va les mettre en œuvre, quelle performance on va leur demander. Et pas du tout l'inverse que l'on fait aujourd'hui. On dit vous faites n'importe quoi et on viendra résoudre le problème en mettant dedans soit un système de chauffage, soit un système de refroidissement, peu importe le système mécanique, et le problème sera résolu. Et donc à partir du moment où on a dit que ce n'était pas la bonne réponse, il fallait proposer une autre réponse. Et nous sommes partis d'un constat assez simple, qui paraît simple en tous les cas, qui est de dire tout bâtiment nouveau que l'on construit ou tout bâtiment que l'on rénove, il se trouve toujours dans un certain climat, quel que soit l'endroit du monde. Ça, c'est inéluctable, c'est un fait. Alors tous ces climats possèdent au fait des aspects positifs et des aspects négatifs. Présentent des aspects positifs, présentent des aspects négatifs. Il n'y a que le climat équatorial de plaine, humide, chaud, de plaine, qui effectivement ne présente que des aspects négatifs. Il fait toujours trop chaud, il fait toujours trop humide, quelle que soit l'heure de la journée, quelle que soit l'heure de la nuit. Donc par rapport à ce climat-là, on ne peut que se protéger de ce climat-là. Mais pour tous les autres climats, notre proposition est de dire ouvrons-nous aux avantages qu'offre le climat, aux aspects positifs du climat, et en même temps protégeons-nous des aspects négatifs. Alors ça paraît une palissade, ça paraît quelque chose d'évident. Mais regardez autour de vous le nombre de bâtiments qui répondent à cette proposition. Si vous arrivez à 5% ici à Poitiers, c'est énorme. Vous êtes sans doute en dessous de 1%. Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que le climat a une dynamique extraordinaire. Il peut évoluer d'heure en heure, il évolue de jour en jour, peu importe. Par contre, le bâtiment, lui, il est statique. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à cette adéquation entre, d'une part, cette dynamique du climat dans lequel on se trouve, et d'autre part, cette statique qu'est le bâtiment. Si un bâtiment est ouvert vers le sud pour gagner l'énergie solaire au niveau de l'hiver, mais il reste orienté vers le sud au niveau de l'été. Et donc, à ce niveau-là, on se retrouve dans une toute autre problématique que celle de capter l'énergie solaire. Par rapport à ce point-là, donc partant de ce principe-là, nous proposons aux architectes de rencontrer dans leur architecture deux objectifs. Le premier, la recherche de la meilleure adéquation entre le climat, la conception et la construction de l'habitat. L'habitat, c'est les bâtiments habités, ce n'est pas l'habitation, ce n'est pas le logement. Conception, agencement des espaces, construction, aspect physique des choses, et l'occupant, parce que l'occupant reste la pièce maîtresse. Et d'ailleurs, c'est tout le charme de l'architecture, c'est le seul métier où on construit des choses de façon obligatoire pour les personnes, puisque les personnes habitent effectivement des bâtiments. Donc recherche de la meilleure adéquation, premier objectif proposé. Et pourquoi l'occupant est si important ? Parce que l'occupant a des exigences de confort. Il veut être confortable en hiver, il veut être confortable en été, il veut avoir une qualité de l'air qu'il respire, et il veut utiliser l'éclairage naturel, qui est l'éclairage qui correspond le mieux à la vision humaine. Et ces quatre exigences de confort-là, il y en a d'autres, hein, le confort acoustique est une autre exigence, mais ces quatre exigences de confort-là peuvent consommer de l'énergie, ou peuvent demander une énergie complémentaire aux énergies du climat. Dans certains cas, on n'a pas besoin d'énergie complémentaire. Il n'y a aucune difficulté en Belgique pour concevoir du logement qui ne nécessite pas de refroidissement mécanique. Il est impossible de construire en Belgique du logement qui n'a pas besoin de chauffage, même un peu. Mais quand même. Il est évident que par ailleurs, il n'y a pas moyen évidemment de se contenter uniquement d'éclairage naturel, puisque toute une partie de la journée, sur les 24 heures, effectivement, on n'a plus d'éclairage naturel. Et donc, par rapport à ce second objectif, il faut un objectif complémentaire. Et cet objectif complémentaire, pardon, c'est la recherche de la meilleure adéquation, toujours l'habitat, toujours l'occupant, et les systèmes complémentaires. Et c'est ici que se pose la question de l'énergie qu'on va utiliser. Elle sera renouvelable ou traditionnelle, peu importe. Mais donc, c'est bien dans ce sens-là qu'on propose d'agir. Donc, on part de l'origine même de la question, qui est au fait le bâtiment. On le conçoit de telle façon qu'il ait besoin le moins d'énergie mécanique ou artificielle complémentaire. Et si on ne sait pas s'en sortir, à ce moment-là, on fait appel, effectivement, à l'artificiel. Et c'est tout à fait contraire à ce que beaucoup de bureaux d'études et beaucoup de bureaux d'architecture font, encore aujourd'hui. Et donc, c'est ça l'origine de l'architecture climatique. Alors pour les architectes dans la salle, on peut se poser la question de savoir, et vous aviez un exposé ce matin sur le passé, est-ce que cette théorie qu'on a remise à jour au début des années 80, est-ce que cette théorie est nouvelle ? Non, elle existait déjà, Vitruve en parlait déjà, Viollet-le-Duc en parlait déjà, Palladio en parlait, Palladio réalisait aussi des bâtiments. Alors dans ces bâtiments, donc là on est au début du 17e, dans ces bâtiments-là, il faut se poser la question, tiens, Palladio qui dit qu'il faut construire en fonction du climat, hein, comme Vitruve le dit, en quoi ce bâtiment est climatique ? Alors il faut se rappeler que les maisons palladiennes en Vénétie, c'était des maisons de villégiature. On y allait en juillet, en août, parce qu'il faisait trop chaud à Venise, les canaux sentaient trop fort, et donc on allait en villégiature, on allait dans les villas palladiennes, et c'était les vacances, donc c'était la fête. Et toutes les villas palladiennes ont un espace de fête. Dans ce cas-ci, c'est l'espace central ici, que l'on voit en coupe ici. Alors regardez cet espace central qui, donc, lui, doit rester le plus frais possible. Alors quand on prend la coupe et qu'on va voir dans le musée de Palladio à Vicence et qu'on va voir les dessins originaux de Palladio, eh bien, on voit qu'à ce niveau-là, il a dessiné effectivement le rayonnement solaire à différentes périodes de l'année et qu'à aucun moment, l'espace central ici n'est ensoleillé. Ça, c'est l'ombrage qu'on a perdu quelque part dans notre architecture. Mais donc, dans certains climats, on ne sait pas se passer de l'ombrage au niveau de l'été. Et puis, quand vous visitez avec le brave guide qui visite le bâtiment avec vous, il vous dit, ici en haut, avant, c'était ouvert. Et la preuve que c'était ouvert, c'est qu'il y a une petite grille ici, dans le bas, pour que l'eau de pluie puisse s'évacuer. Donc ça, c'est ce que le guide dit. Et au fait, quand on va voir dans les dessins de Palladio, on voit qu'il dessine une ligne qui fait ceci, qui passe à travers la grille et qui ressort avec une flèche en partie supérieure. Et ça, c'est la ventilation naturelle du bâtiment. Et donc, au niveau de la stratégie d'été, on va ombrer le bâtiment. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas faire du néo-palladien aujourd'hui. On va ombrer le bâtiment et on va effectivement le ventiler naturellement. Et en particulier, on va le ventiler naturellement la nuit. Or, regardez autour de vous combien d'écoles sont rafraîchies la nuit, naturellement. Combien d'immeubles de bureaux sont rafraîchis la nuit, naturellement. Aucun. Aucun. Ce n'est pas compliqué. Aucun. Un autre exemple par rapport à l'architecture, pour vous montrer que les grands architectes de la période dite moderne de l'architecture, hein, avec des Alto, des Wright, etc. Regardez, vous avez ici deux agences d'architecture construites dans les années 30 par le même architecte, Frank Lloyd Wright. L'une agence ici est dans un climat un peu comme le nôtre. L'autre agence ici est en plein désert. C'est le même programme, c'est le même architecte. Ce sont deux bâtiments complètement différents de par le climat dans lequel, effectivement, ils se trouvent. Alors, parler d'architecture climatique demande de maîtriser un certain nombre de concepts. Je ne vais pas les passer tous en revue. D'une part, bien entendu, un certain nombre de données climatiques de l'endroit où vous êtes. D'autre part, des notions de confort, puisque ça, c'est l'objectif, finalement. C'est de faire l'architecture de telle façon que l'occupant y soit confortable. Et puis, des notions de physique du bâtiment, parce qu'il faut quand même savoir ce qui se passe qu'est-ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur, hein. Et donc ça, c'est simplement de la physique. C'est de la physique facile, hein. C'est pas de la physique nucléaire, c'est de la physique toute simple, 2 plus 2 égale 4. Quoi. Alors je ne vais pas passer en revue celle-là, mais je voudrais simplement vous montrer un exemple de données climatiques qui sont les données d'éclairage naturel à notre disposition. Pour les mathématiciens ou physiciens dans la salle, ceci est une échelle logarithmique. Donc si elle est arithmétique, je serai au-dessus du toit. Regardez la période la plus défavorable. En plein décembre, par un ciel couvert, j'atteins quand même 5 à 6 000 lux. En plein été, en plein soleil, je suis à 100 000 lux. Et on demande à l'intérieur des bureaux 500 lux. 500 lux. Alors regardez autour de vous le nombre d'immeubles qui effectivement sont conçus de telle façon qu'on utilise au maximum l'éclairage naturel. Et la preuve de cela, c'est une enquête d'EDF. Donc on ne peut pas dire que je suis partial à ce niveau-là. 200 immeubles de bureaux privés en Belgique, sur les 24 heures de la journée. Alors prenez une journée type d'hiver en semaine. C'est la courbe bleue. Donc les gens commencent à arriver vers 7-8 heures. C'est le nombre de luminaires en fonctionnement, pourcentage du nombre de luminaires en fonctionnement. Première constatation, il y a déjà 10 à 12% qui fonctionnent la nuit. On peut se demander pourquoi. Hein, en dehors de l'éclairage de sécurité, on peut se demander pourquoi. Ceci étant, c'est un fait, 12%. Et puis ça monte, on atteint les 90%, c'est la courbe bleue. Jusque-là, on peut dire, ok, ça va. On est un peu étonné qu'à midi, ça ne descend pas un peu plus, mais enfin, soit, on peut dire, c'est bon. Mais alors le drame, regardez, en été, la courbe rouge, en semaine, elle est pratiquement égale à la bleue. Et ça, c'est pas normal. Alors les raisons peuvent être multiples, ça peut être une mauvaise conception, ça peut être un mauvais comportement, ça peut être une mauvaise installation, ça peut être mal régulée, peu importe. Mais en tous les cas, ça c'est tout à fait anormal. Il y a des dizaines de pourcents à gagner dans l'énergie électrique d'éclairage. Alors quand vous gagnez en éclairage, vous gagnez aussi en gains gratuits internes, et donc vous gagnez aussi en besoin de froid. Donc, vous voyez la cascade, simplement parce qu'on utilise mieux l'éclairage naturel que si on ne le fait pas. Rapidement, l'un ou l'autre exemple, qui sont simplement des exemples, je dirais, d'architectes qui, naturellement, même s'ils ne le disent pas, mais naturellement ont tenu compte du climat. Tous les exemples que je vous montre ici, on était les vérifier sur place avec l'architecte. Donc on a écouté ce qu'il disait, on ne disait rien, on écoutait ce qu'il disait. Et si effectivement il donnait un discours par rapport au climat, on se disait, bon, ben, il a fait exprès, quoi, d'effectivement tenir compte du climat. C'est une prison psychiatrique à Berlin, une prison ou un hôpital, je crois qu'il n'y a pas de grande différence. Berlin, c'est un climat continental, donc très froid en hiver, très chaud en été. Les logements sont mis est-ouest, donc pas en plein soleil, pas en plein sud, première chose. Il y a des jardins d'hiver entre les logements, il y a des jardins d'été entre les logements. Comme il fait trop froid, on va dans le jardin d'hiver au niveau de la journée. Ces jardins d'hiver ont une partie supérieure qui peut s'ouvrir. Donc il permet une ventilation par effet de cheminée à travers le jardin d'hiver. Et puis les ateliers, c'est les carrés rouges, les ateliers viennent perpendiculaires et viennent protéger du nord. Voilà, donc simplement par l'implantation, on a déjà gagné X% en besoin d'énergie. Rien que par l'implantation. Un autre exemple, qui paraît tout à fait paradoxal, mais quand on voit un dessin comme ça, on se dit l'architecte a fait exprès, évidemment, de tenir compte du climat, puisqu'il dessine le soleil. Et au fait, étonnamment, on a un grand espace ici qui est ouvert vers le nord. Et une grande masse ici qui vient protéger du sud, sauf cet élément-là, qui effectivement est orienté plein sud. C'est à Londres. Et pourquoi cela a été fait comme ça et ça a été calculé, etc., par Arup, qui est un des gros groupes bureaux d'études en Angleterre. C'est parce que le bilan été-hiver du besoin en énergie dans ce type d'immeuble était le moins important avec cette orientation-là. C'est un immeuble d'assurance. Les immeubles d'assurance, comme les banques, sont ceux qui ont le plus de charges internes. Donc sont ceux que l'on le refroidit, que quand à l'extérieur, la température est en dessous de 2 degrés. Pardon, qu'on ne chauffe que quand la température extérieure est en dessous de 2 degrés. Donc s'il fait 3 degrés, on refroidit. S'il fait 4 degrés, on refroidit. Et donc il faut faire en sorte qu'évidemment, on ait le moins de surchauffe possible, qu'elle vienne du climat ou qu'elle vienne de l'intérieur. Et donc on a un bâtiment à ce niveau-là qui est donc orienté complètement vers le nord. Voilà le plan des grandes zones de bureaux paysagers complètement vers le nord, avec une immense surface vitrée qui va donner le maximum d'éclairage naturel et une grande masse qui vient ici protéger du sud, qui sont faits tous les stockages, tous les ordinateurs de la banque. Entre les deux, une rue, je dirais, qui relie les deux bâtiments. Regardez une petite surface vitrée ici qui est complètement ombrée. Un grand élément vitré de ce côté-là, côté nord, qui donne encore de l'éclairage de cette façon-là au niveau du bâtiment. Et si je vous donne des images du bâtiment, voilà la façade nord. comme c'est des assurances, ils ont beaucoup d'argent, donc les personnes sont éloignées de la façade nord, ils n'ont pas d'inconvénient, d'inconfort dû au rayonnement froid avec la façade nord. Et regardez la façade sud, je vous disais qu'il y avait quelque chose qui était tourné vers le sud, ben c'est la cafétéria, c'est la terrasse de la cafétéria, ce qui est tout à fait, je dirais, logique. Je vous ai dit que je ne parlerai pas plus que cela du climat. La même chose, je ne parle pas plus des aspects confort. Au niveau physique, comme on s'adresse à des architectes, notre public, ce sont les architectes, pour eux, on va travailler tous les concepts physiques derrière, il y a tous les algorithmes que l'on veut, on a tous les systèmes de calcul dynamique qui existent, on les traduit le plus simplement possible. Et donc, on les a traduits en fonction des stratégies que l'on veut poursuivre. Donc, on veut qu'il fasse bon en hiver, on veut qu'il fasse bon en été, on veut que la qualité de l'air soit importante et on veut qu'on utilise l'éclairage naturel. Et donc, on a défini trois stratégies. La stratégie du chaud lorsqu'il faut chauffer le bâtiment, basée sur quatre concepts. Le premier est capter l'énergie solaire à notre disposition. Le deuxième, stocker cette énergie solaire de telle façon qu'on ne va pas vers une surchauffe immédiate comme vous avez dans votre caravane ou votre voiture que vous laissez au soleil, que ce soit en été ou en hiver, il fera plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur s'il y a plein soleil. Cette énergie stockée, elle ne reste pas stockée, parce qu'il suffirait un jour de soleil, alors et puis c'est tout, on ne devrait plus jamais chauffer pendant toute l'année. Elle est redistribuée par convection au rayonnement dans le reste du bâtiment. Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'énergie solaire, il faut conserver toute la chaleur qui vient encore du soleil, ainsi que toute la chaleur qui effectivement a été émise à l'intérieur du bâtiment pour maintenir la température que l'on veut. Et conserver, c'est d'abord de nouveau une question d'architecture avant d'une question d'isolation. Si vous situez dans tous les bâtiments, il y a des locaux qui doivent être peu chauffés ou pas chauffés. Donc si vous situez ces locaux côté nord, mais d'office, ces locaux côté nord vont protéger les locaux qui doivent être chauffés que eux vous mettez côté sud. Et donc la déperdition de chaleur des locaux côté sud, elle va se faire vers des locaux moins chauffés ou pas chauffés. Vous voyez, c'est une simple question de plan. Vous faites ça en plan, vous faites ça en coupe, c'est une simple question de plan. Vous avez économisé beaucoup d'énergie pour le même coût du bâtiment. Ça, c'est la stratégie du chaud. La stratégie du froid, je dois refroidir le bâtiment. Donc, je vais limiter au maximum tous les gains internes. C'est l'ombrage, d'une part. C'est limiter les charges internes. Et puis, c'est dissiper la chaleur, à tout le moins la nuit, qui a été accumulée par ventilation naturelle, effectivement, dans le bâtiment, avant de parler de système mécanique. Si vous êtes dans des climats très chauds, de plus en plus chauds, cela ne suffit pas parce que si vous dissipez votre chaleur ici avec une température extérieure qui fait 40 degrés, ben vous allez chauffer évidemment à l'intérieur de votre bâtiment. Donc il faut d'abord refroidir l'air extérieur autour du bâtiment. C'est toute la technique des jardins. Quand vous allez à l'Alhambra, vous allez à l'Alcazar à Séville, vous allez dans le palais arabe, vous avez les jardins. Et les jardins, c'est de l'ombre, il fait toujours plus frais à l'ombre qu'en plein soleil. Les jardins, c'est de l'eau, et il y a une évapotranspiration, une évaporation qui se fait de l'eau. Et donc, il faut capter l'énergie quelque part pour que ce phénomène se fasse. On capte l'énergie dans l'air, donc on diminue la température. Et alors, on arrive à pouvoir dissiper la chaleur. Et dans ces climats-là aussi, lorsqu'il fait très chaud, on peut empêcher ce transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, ça peut justifier aussi d'éviter ce transfert de chaleur et donc aussi d'isoler les bâtiments, même si on est dans des climats chauds. Dernière stratégie, la stratégie de l'utilisation de l'éclairage naturel. On va capter l'éclairage naturel à notre disposition. En fonction du type d'ambiance que l'on souhaite, d'un côté, on va soit la répartir complètement, c'est le cas d'une classe, il n'y a pas de raison que dans une classe, il y a un élève qui a un moins bon éclairage naturel qu'un autre, ou on peut la focaliser sur un endroit, sur un mur, sur une œuvre d'art, peu importe. Maintenant, l'éclairage naturel n'a pas que des aspects positifs, il faut se protéger de l'éblouissement. Ou alors, on peut aussi contrôler la quantité de lumière que l'on souhaite laisser rentrer dans le bâtiment, parce qu'on a envie de créer telle ou telle ambiance lumineuse. Autre et dernière remarque avant de passer encore à l'un ou l'autre exemple, c'est que donc en fonction du climat, en fonction du programme, du type de bâtiment, on va appliquer plus ou moins les stratégies que je vous ai données. Le problème de la maison, ce n'est pas un problème d'éclairage naturel, c'est un problème de chauffage, ça reste un problème de chauffage, ça reste un problème de ventilation. Le problème de l'école, c'est un problème d'éclairage naturel, c'est un problème de ventilation. Vous avez une concentration de personnes dans un espace limité qui fait que la qualité de l'air et pour l'évolution du développement des enfants, la qualité de l'air est effectivement importante. L'immeuble de bureau, ça reste de devoir refroidir le moins possible l'immeuble de bureau, donc utiliser l'éclairage naturel et diminuer les gains internes. quelques exemples simplement. Donc de nouveau, ce n'est pas une architecture qui coûte plus cher que si on n'avait pas fait comme cela. Ceci est un petit immeuble bureau sur la plage de Barcelone, de l'architecte Sisa. L'architecte Sisa voulait de l'éclairage naturel dans ses bureaux, ce qui était impossible de faire en façade. Et donc il est venu mettre les fenêtres perpendiculaires. Donc aucune de ces fenêtres n'a un ensoleillement direct, mais donne de la lumière naturelle dans les bureaux. Il creuse le centre du bâtiment pour amener de l'éclairage latéralement sur les locaux qui donnent dans le centre. Mais ce centre-là, la nuit, se remplit d'air frais. Et donc pendant tout un temps, le matin, les locaux qui donnent sur cet élément central peuvent profiter effectivement de ce refroidissement. Un autre exemple, ici on est à Malte, donc on est en plein désert, c'est une brasserie. La brasserie, c'est comme le vin, il faut maintenir les cuves à température constante. Donc qu'est-ce que l'architecte fait? Il vient construire une très grande masse qui vient effectivement entourer toutes les cuves qui se trouvent à l'intérieur, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il n'y a rien à faire, quelle que soit la masse, certainement, il y a quand même un transfert de chaleur qui se fait entre l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur vers l'intérieur. Et comme il a encore des locaux à mettre, des couloirs, etc., des stockages et tout ça, il vient construire en fait un deuxième mur massif, on le voit bien. Et donc, en fait, il a créé un thermos. Son bâtiment, c'est un thermos, tout simplement, avec de la masse. Un autre exemple que vous connaissez, c'est une école à Fréjus. Regardez, on est dans le sud de la France. Les petits locaux sont au sud. Les grands locaux sont au nord. Immense ombrage, côté sud, qui laisse passer l'éclairage naturel. Ventilation transversale possible par la rue intérieure. Éclairage par la rue intérieure. Ventilation entre la coque supérieure et la coque inférieure de la toiture. Tout ça, ça ne coûte pas plus cher et c'est simplement un bâtiment qui va consommer beaucoup moins d'énergie. Il y a d'autres exemples. Je prends l'école d'architecture de Lyon où ça ne marche pas du tout. Pour vous donner un autre exemple. Il reste 5 minutes. Okay. Donc l'architecture climatique, ce n'est pas ça. Ça va ? C'est ce que les physiciens et les mécaniciens ont voulu nous faire croire, que ça, c'était l'architecture climatique. C'est une caricature, mais j'aurais pu vous montrer beaucoup d'exemples, effectivement, de ce type-là. Je vais accélérer. À partir des années, 90, la question qui s'est posée était de dire, est-ce qu'on peut simplement se contenter aujourd'hui de parler d'énergie ? Même si l'énergie reste le core business de nos préoccupations. Et donc la question qui s'est posée, au même titre que nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux crises de l'énergie ? On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la crise de l'environnement ? Voilà. Ce sont des vraies photos, hein. ce n'est pas des trucages ou des montages. Alors par rapport à la crise de l'environnement, je vais aller vite, cette courbe-là, vous la connaissez, mais ceux-ci sont des chiffres intéressants. On a beaucoup parlé de CO2 ce matin. Regardez, on a passé le seuil où on ne sait pas si les choses sont réversibles. Et aujourd'hui, quels que soient les paramètres que l'on prend au niveau du climat, on est au-dessus de tout ce qu'on n'a jamais mesuré dans le temps, dans l'histoire du climat. Voilà, c'est cette donnée-là. Alors, la dernière fois qu'on avait atteint 400 ppm, donc c'était à 3 à 5 millions d'années d'ici, on avait une température 3 à 4 degrés supérieure à aujourd'hui, et le niveau des mers était de 5 à 40 mètres plus élevé. Ça va arriver un jour, quand, on ne sait pas. Mais c'est certain que ça va arriver. Je pense que ça, j'espère en tous les cas que ça n'est plus mis en doute. Et je vous donne un dernier exemple par rapport à cela. Parce que parfois je suis fâché contre les ingénieurs, mais si je suis ingénieur moi-même. Vous savez que tous les serveurs de Google dans le monde entier consomment 2% de l'électricité mondiale. Tous les serveurs de Google dans le monde entier consomment 2% de l'électricité mondiale. Tous les serveurs de Google dans le monde entier sont pour 1,5% de production de CO2. Donc produisent 1,5% de production de CO2 par an au niveau mondial. Alors je ne sais pas si les ingénieurs de Google sont vraiment des ingénieurs. Alors pourquoi s'intéresser à l'aspect développement durable ? Ben voilà l'impact du secteur de la construction. C'est au niveau européen, ça, ce sont des moyens au niveau européen. Donc ce n'est pas que l'aspect énergie. Il y a tout l'aspect ressources naturelles qui sont exploitées. Un matériau, on le construit à partir de ressources naturelles. Il n'y a pas que le pétrole comme ressource naturelle. 40% des déchets, c'est de la construction. 30% des émissions de gaz à effet de serre. 16% de la consommation d'eau. Et donc, par rapport à cela, il fallait aussi réagir, il fallait aussi se positionner. On a fait toute une démarche, vous aurez les transparents, donc ça ne pose pas de difficultés. On a fait toute une démarche par rapport aux définitions du développement durable, par rapport à Brundtland. On est reparti de cela, on a regardé ce qui existait. Et donc, je vais passer ces slides-là très rapidement. Donc on a redémarré de Wendland, on a vu que les architectes ont fait pas mal de choses, et j'arrive alors, et je termine avec ça, à une définition de l'architecture durable que je vous soumets. On n'a pas la prétention que c'est la définition, c'est la définition de l'équipe de recherche. Il a fallu 3 ans pour arriver à ça. Donc l'architecture durable s'inscrit éthiquement, parce que je crois que c'est une question d'éthique. Aujourd'hui encore, c'est une question d'éthique. On est vraiment par rapport à une question d'éthique. Dans son milieu, quand je dis son milieu, c'est tous les milieux. Hein. Qu'il soit le paysage, qu'il soit climatique, qu'il soit social, qu'il soit économique, qu'il soit géologique, peu importe. Tous les milieux. Pour tirer avantage de, effectivement, ses milieux, son milieu, pour se protéger des désavantages de son milieu, donc par exemple le bruit, par exemple l'insécurité, mais surtout pour faire bénéficier le milieu de ce qu'elle génère. Si aujourd'hui, vous construisez un bâtiment et vous n'apportez rien à l'endroit où vous venez le construire, il ne faut pas le construire. Alors, je sais, c'est facile à dire, l'architecte doit aussi manger. Mais donc il faut se battre pour apporter plus que simplement le bâtiment. De la même façon, si aujourd'hui, en démolissant un bâtiment, vous amenez un plus à l'endroit où vous l'avez démoli, n'hésitez pas à le démolir. Ça va, il n'y a pas de raison de garder un bâtiment de 1900 comme ça, s'il pénalise l'endroit où il se trouve. Et bien entendu, il faut rester objectif. Le fait de venir construire un bâtiment, il amène avec lui ses propres nuisances. Et donc, il faut limiter au maximum ses nuisances. Je termine avec les enjeux de demain, je les cite tout simplement. Donc, en ce qui nous concerne, les enjeux de demain, c'est où est-ce qu'on intervient ? On ne met pas une école n'importe où. On ne met pas du logement n'importe où. Les aspects programmatiques, là en France vous êtes très fort, mais les aspects programmatiques doivent absolument viser la multiplicité de fonctions, la multiplicité des générations. Ça rejoint un des principes, effectivement, du développement durable. La conception énergétique reste le cœur business de tout ce que l'on dit aujourd'hui par rapport au développement durable, mais il ne peut pas rester seul. Il y a un travail énorme à faire au niveau des systèmes complémentaires. Systèmes complémentaires en adéquation avec le bâtiment et sa conception, c'est pratiquement fait nulle part. La qualité de l'air va devenir de plus en plus importante parce que les bâtiments sont de plus en plus isolés, de plus en plus étanches, et donc la qualité de l'air est fondamentale. La problématique de l'eau, il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas d'eau potable, donc on ne joue pas avec l'eau. Donc il faut se poser la question de ce que l'on fait avec l'eau, et ça peut donner des choses extraordinaires, des nouveaux métiers comme des paysagistes, par exemple, qui utilisent l'eau de pluie lorsqu'elle tombe au niveau du local. Assez étonnamment, l'eau est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Elle arrive enterrée, elle repart enterrée. Or, l'eau, c'est quand même symbolique extraordinaire, quand même, l'eau. L'eau, c'est la vie, l'eau, c'est la pureté, l'eau, c'est plein de choses, quoi. Bon, on ne veut pas la voir, on l'enterre. On l'enterre à l'arrivée, on l'enterre au départ. Les matériaux qu'on va utiliser, et encore une fois, l'impact sur la santé. Et enfin, les déchets de construction. Je pense qu'il faut se mettre dans une position qui est de dire tout déchet de construction, demain, est un matériau de construction. Tout déchet de construction demain doit redevenir un matériau de construction, pas nécessairement le même, mais doit redevenir un matériau de construction. Alors tout ça, je passe le détail et toutes les recherches que l'on fait à ce niveau-là, tout ça pourquoi, vous allez me dire, eh ben voilà, pour ceci. Avec les crises de l'énergie, on avait, on va dire, atténué, calmé la dégradation de la situation sociale, économique et environnementale. Oui, Brundtland dit, il y a aussi l'aspect politique. En Europe, comme en démocratie, on laisse tomber l'aspect politique. Ce n'est pas sûr qu'il faut le laisser tomber. Bon. Le contre-choc pétrolier 85, la dégringolade totale de la situation, la dégradation totale de la situation, c'est celle-là dans laquelle on est aujourd'hui. Et par rapport à cela, il y a la boule du développement durable, qui n'est pas de la neige, qui est une vraie boule solide, qui se construit. Et l'enjeu, c'est que cette boule vienne inverser toute cette tendance. Alors, j'ai mis 2000, j'ai quand même mis 2, je n'ai pas mis 3, mais je n'ai pas osé mettre les autres chiffres. Je vous remercie de votre attention.
Bon, des questions ? Moi, je veux bien lancer le débat.
Allez-y. Allez-y.
Merci, c'était intéressant. Je pense qu'il y a un problème dans la question du changement climatique à l'échelle internationale telle qu'il s'est développé, c'est la dimension urbanistique, l'urbanisation du monde. Et on voit bien, et ça a donné un chapitre dans le dernier rapport du GIEC, celui du deuxième groupe, ou du troisième, je ne sais plus, un chapitre sur les villes, c'est-à-dire la dimension des villes, en particulier en Chine, en Inde, etc., ces villes, ces tours, etc. Et donc, il me semble, mais c'est une question que je vous pose, que la corporation des architectes qui s'intéresse aux bâtiments un par un, je dirais, un par un, avec toutes les préoccupations que vous avez développées, n'a jamais, s'est jamais confronté frontalement à cette dimension totalement collective de l'urbanisation. Et je suis un peu frappée que dans vos exemples, il n'y ait pas eu une fois une tour, les tours. Or, évidemment, quand on se balade en Asie, on voit que ça.
C'est bien dommage. J'étais à Pékin il n'y a pas longtemps. Heureusement qu'il y avait des lettrages en chinois, parce que je n'aurais pas su dire que j'étais à Pékin. Sauf quand j'étais dans la cité interdite, ouais, évidemment. Mais voilà, c'est ça l'urbanisme d'aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer, mais c'est ça l'urbanisme d'aujourd'hui. Là en haut, c'est un magasin de commerce, on a vu, évidemment, on comprend. Mais ce n'est pas important que ce soit un magasin de commerce qui a été dessiné si banalement que cela. Ce qui est important, regardez le long d'une grande chaussée. Et regardez toutes les sorties de ville, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on a le long des grandes chaussées? Du commerce. Le marchand de voitures, le marchand de matériaux, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'urbanisme dans lequel on est aujourd'hui. Heureusement, on rénove le centre des villes. Et Poitiers, pour ça, est un bel exemple. Et donc, je pense que ça peut ramener des personnes en ville, effectivement. La question de la tour, pour moi, la tour, c'est exclure. Ou alors, il faut mettre des tours le long des autoroutes, à l'échelle de l'autoroute, quoi. On met des grands signaux comme ça à l'échelle de l'autoroute à côté des échangeurs. Alors, on va vers cette question-là. Donc, on va vers la question, effectivement, de la ville et de reprendre la ville dans son ensemble, vers de la mutualisation d'un certain nombre d'éléments, mutualisation d'énergie, par exemple. D'un côté, on éjecte de l'air chaud qui peut servir à chauffer. D'un côté, on fabrique tel déchet, des palettes de bois, par exemple, qui vont servir à faire d'autres éléments en bois. Donc, on réfléchit et on va vers ce genre de choses. Vous savez que EDF a créé un groupe de réflexion depuis 3 ans maintenant à Pékin, où ils espèrent pouvoir, donc c'est le grand mot à la mode, hein, les smart cities, où ils espèrent pouvoir dans les nouvelles villes chinoises, se préoccuper de proposer leurs services à ce niveau-là. Alors, le problème de la ville, c'est qu'elle s'étend. Et au même titre qu'il y a un certain temps, on protégeait la ville de la campagne, il y avait des portes aux entrées des villes. Je me demande s'il ne faudrait pas mettre des portes à la campagne pour protéger la campagne des villes.
Non, c'était, merci pour cet exposé. C'était juste une question, justement, bon, ça va un peu dans le même sens. Il y a les habitants qui étaient centraux dans au début de l'exposé. Il y a beaucoup d'expériences d'éco-quartier quand même. Donc, quel retour d'expérience ou quelle vision, comment vous voyez justement alors cette contre-ville ou cette ville réappropriée, retournée, enfin voilà.
Personnellement, je pense que ce sont les gens, c'est le public qui va sauver la question. Et les écoquartiers, pour moi, le grand apport des écoquartiers, c'est que les gens reparlent ensemble, se revoient, et qu'on va retrouver de l'espace public, des endroits où les gens peuvent s'asseoir, peuvent discuter, peuvent échanger. Aujourd'hui, l'espace public, c'est le mall commercial. C'est le mall commercial qui est tout sauf public. C'est privé. Et donc, c'est ça que je pense que la rénovation des centres-villes va permettre de retrouver cela. Il y a des gens qui, il y a 30 ans, osaient traverser la rue pour aller dire bonjour à son voisin d'en face. Aujourd'hui, ils n'osent plus. Parce que la circulation est trop rapide. Alors, un petit encart par rapport à ça, il ne faut pas être utopiste, on ne supprimera pas la voiture. Mais il faut lui donner sa juste place. Et si vous dessinez la chaussée de telle façon que le conducteur ne sait pas rouler à plus de 30 km/h, il sera très content de pouvoir encore être dans sa voiture, mais il roulera à 30 km/h. Et la rue sera piétonne, au fait. Et c'est à ce genre de choses-là qu'effectivement, il faut réfléchir. Mais moi, je suis un optimiste. Hein. Ce que j'ai montré, le dernier schéma que j'ai montré, la boule, elle continue à grandir. Mais je crois que c'est le public qui va effectivement revenir à ce genre... De choses qu'un jour va dire aux banquiers, vont un jour dire aux politiciens, mais non, ça suffit, quoi, on en a marre. Quoi. Et ça, je pense qu'il faut y penser. Je crois que, par exemple, une étude que j'aurais aimé faire, moi, que je n'ai pas faite parce que je ne suis pas sociologue, comment se fait-il qu'il n'y ait aucune difficulté pour convaincre les gens de faire le tri des déchets? En Belgique, tout le monde trie les déchets. En Belgique, tout le monde trie les déchets. On a 3 sacs de couleurs différents, et bien tout le monde trie les déchets. Je ne dis pas que c'est bien trié. Mais en tous les cas, ça n'a pas posé de difficulté. Il n'y a pas eu d'imposition plus importante que simplement devoir acheter le sac. Mais il n'y a pas eu de grande campagne publicitaire, machin, truc. En énergie, ça fait 30 ans qu'on fait des campagnes. On n'y est pas encore. Nous, il a fallu 20 ans pour qu'on nous croie au niveau du bioclimatisme. Voilà. Le monde de la construction est un monde extraordinairement lent et extraordinairement archaïque. On en est encore à mettre un peu de ciment, une brique, un peu de ciment, une brique, un peu de ciment, une brique.
Oui, parce qu'on est parti sur l'urbanisation, la ville. Deux questions concernant la ville. Pourquoi autant d'éclairages inutiles la nuit, en particulier de panneaux publicitaires, mais aussi de lieux qui ne méritent pas un éclairage la nuit complète ? Il n'y a pas d'insécurité à ce point-là chez nous. Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on imperméabilise autant la ville sans créer des espaces tampons où l'eau puisse pénétrer dans le sol ?
Alors, sur la deuxième question, il y a un retour à ce niveau-là. Donc, par exemple, à Bruxelles, le règlement d'urbanisme arrive à dire toute eau qui tombe sur une parcelle doit retrouver la nappe phréatique, doit retourner à la nappe phréatique. La Belgique est plus mal mise en termes d'eau que vous. Hein. Donc on a une réserve de l'ordre de 250 litres par an par personne, mais toute consommation confondue, industrielle et autres confondues. Non, 250 mètres cubes, excusez-moi, 250 mètres cubes par personne sur un an, on en est à 200. Donc on n'est pas loin d'une potentielle pénurie, évidemment, à ce niveau-là. Concernant... le premier point, l'éclairage. Écoutez, l'aspect sécurité est évidemment mis en avant, l'aspect confort des gens est mis en avant, l'aspect beauté de la ville est mis en avant. Quand on voit le plan éclairage de Lyon, on ne peut pas dire que c'est vilain. Hein. Ça, c'est certain, mais je suis d'accord avec vous. Il y a plein d'économies possibles à ce niveau-là. Hein. En Belgique, toutes les autoroutes sont éclairées, ce qui n'est pas le cas en France. Et, ça fait un choc quand on arrive en France ou quand on arrive en Belgique, c'est dans les deux sens. Mais vous avez raison. Mais il y a plein d'économies possibles. En électricité, c'est d'ailleurs la prochaine économie qu'il faut faire, puisque en énergie de chauffage, je ne vais pas dire qu'on est à zéro, mais on tend vers zéro. On ne fait pas encore d'utilisation rationnelle d'énergie en climatisation. En chauffage, on chauffe à 20 degrés alors qu'on chauffait à 23. En climatisation, on climatise à 23 alors qu'on pourrait climatiser à 25 ou 26. Donc, d'utilisation rationnelle de l'énergie, comme par hasard, on ne le fait pas en climatisation. On le fait en chauffage, mais pas en climatisation. Donc, c'est énorme, les économies d'énergie qu'on peut faire. Énorme. Maintenant, il faut aussi aider l'occupant à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faut lui donner des moyens simples qu'il puisse dominer. Mais des moyens simples, par exemple, je pense qu'il est intéressant que si quelqu'un n'est plus dans une pièce, ben, l'éclairage s'éteint. Voilà, tout simplement. Donc, c'est plus important qu'il s'éteigne qu'il s'allume quand il rentre, quoi. Là, s'il n'est pas allumé quand il rentre, ben, il fera fonctionner l'interrupteur, évidemment. Et donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut trouver.
Dernière question. Vous avez dit que les tours sont à exclure et aussi qu'il fallait protéger la campagne. C'est un peu contradictoire puisque les tours économisent de la place.
Non, on pense. On pense qu'elles économisent de la place. Mais la surface que la tour occupe... est telle que vous pouvez disposer la même chose sur 3-4 niveaux sans difficulté sur la surface totale. Parce qu'au pied d'une tour, on ne sait rien faire. Vous vous envolez, une fois sur deux, et donc au pied d'une tour, on ne sait rien faire.
En tout cas, on sent bien qu'on a un problème majeur qu'on n'a pas du tout suffisamment exploré. Parce que, par exemple, je suis allée très souvent en Chine et j'ai vu les responsables. Et à chaque fois, tout le monde nous parle des villes européennes. Les Chinois adorent les villes européennes à visiter. Ils les trouvent les plus belles du monde, Paris, les villes italiennes. Enfin, ils adorent. Mais évidemment, ils construisent complètement autre chose parce qu'ils disent qu'ils ont des masses de gens à loger avec ces fameuses tours. Et donc, je veux dire, cette idée de c'est pour ça que moi, je suis pas tout à fait d'accord. Excusez-moi, de dire la ville du développement durable. Peut-être, mais la question climatique est importante. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit oubliée dans le mot développement durable, qui a été un truc très mou.
Tout ce que j'ai parlé du climat est intégré dans le développement durable et dans l'architecture durable. J'ai commencé par ça, d'ailleurs.
Mais le mot développement durable est un tout petit peu galvaudé, il a perdu de sa force, quoi. Il est complètement...
Faites-nous confiance. Mais je reviens sur la tour deux instants, avec quelques questions. Est-ce qu'il est logique que quelqu'un habite au 25e ou 30e étage d'une tour et qu'il domine tous les autres autour de lui? Est-ce qu'il est logique d'habiter une tour au 30e étage ? C'est du logement, hein. On ne peut pas ouvrir sa fenêtre. Voilà, c'est tout.
Oui, oui, je suis d'accord. Bien sûr. Bon, merci. Merci. La parole est à M. Alain Perçu. Là, nous allons parler de forêt.
Je peux vous dire.
Monsieur Perçu est au Centre national de la propriété forestière, délégation du Poitou-Charentes.
N'inquiétez pas, ça va venir. Je suis en train de regarder, faire défiler un petit peu l'ordinateur. Voilà. On va revenir à une carte qui nous intéressera tout à l'heure. Si j'avais. Je reviens en arrière. Zut. Je remonte. Parler tout à l'heure. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. Oui, merci de m'avoir fait venir pour reparler de forêt. Alors attendez voir, plein écran. Je vais là-dessus. Non. Diapositive actuelle. Voilà. Ouais. Les forestiers, c'est ça, hein, quand ils sont sortis de leurs arbres, après ils sont un petit peu démunis. On parlait tout à l'heure développement durable. C'est aussi utilisé en matière de sylviculture et de gestion des forêts. Moi, c'est un terme que... En fait, le vrai terme, c'est sustainable development, donc le développement soutenable. Et je préfère utiliser ce terme-là, moi, quand j'aborde les problèmes de foresterie, puisque il y a une confusion, si vous voulez, avec la notion de durée. Développement durable, est-ce que c'est un développement qui peut durer éternellement ? Je ne le pense pas. Et quand je m'adresse à un propriétaire forestier et que je leur dis, voilà, il faudrait faire du développement. Si je lui dis, il faudrait faire du développement durable, il me dit, bah, je vous remercie beaucoup. Moi, je fais ça depuis très longtemps, puisque quand je coupe un arbre, je veille à ce qu'un autre repousse, etc. Donc, on raccourcit un petit peu les choses et on oublie les trois composantes du fameux développement durable, donc développement soutenable pour moi, l'économique, le social et l'environnement. Je vais commencer par une petite anecdote. Qui m'a été rappelé par les propos de ce matin. En 2010, ça a été l'année internationale de la forêt. Alors c'est à peu près aussi utile que l'année internationale de la femme, l'année internationale de l'enfant. Tout le monde en parle et puis après on attend les réalisations concrètes et on se demande si c'est bien passé dans les mœurs. Mais il y a eu une année internationale de la forêt en 2010. Et le Festival international de géographie de Saint-Dié, dans les Vosges, qui existe depuis 20 ou 30 ans, m'avait demandé de venir faire une conférence sur la forêt. Donc j'y suis allé, bien évidemment, avec plaisir. J'avais à peu près 90-100 personnes dans ma conférence, et il y avait une conférence parallèle dans une salle d'à côté, où il y avait beaucoup plus de monde. Et le thème de cette conférence était, et ça ne vous étonnera pas qu'il y avait beaucoup plus de monde que dans la mienne, « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête ». C'était un corpus de 10 ou 12 personnes, je le crois, qui avaient ce qu'on appelle commis un livre, qui s'appelle comme ça. Donc le message implicite, donc il y avait 300 ou 400 personnes dans la salle, le message implicite c'était tout va bien, la science va nous sauver, autrement dit continuer à dormir, il n'y a pas de problème. Et il y avait même eu un passage quand même où de toute façon, et la science et Dieu nous sauveront. Donc ne vous inquiétez pas. Alors après, les conceptions religieuses de chacun lui appartient, mais là, c'était quand même un petit peu curieux de voir que dans une communication scientifique, on faisait appel à des choses un petit peu extraordinaires, si j'ose dire. Alors je vais surtout, moi, vous parler de forêt, puisque je suis un petit peu moins habilité à parler d'agriculture. Pour l'agriculture, j'ai envie de vous renvoyer vers une étude qui vient d'être publiée, qui est relativement bien faite, qui s'appelle « Stratégie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique ». et que vous pouvez aller consulter sur Internet, qui a été publié par le réseau Action Climat France. C'est très bien fichu, vous avez plein d'informations, etc. Et singulièrement, vous y verrez abordé, bien évidemment, par rapport et à l'aune du changement climatique. Et là, je parlerai aussi de la forêt à l'aune du changement climatique, peut-être en rajoutant un L à aune. Et je m'expliquerai un petit peu pourquoi. Donc cette étude est relativement bien faite. On parle beaucoup d'eau et vous savez qu'il y a un événement récent qui a illustré d'une manière dramatique ces problématiques d'eau en matière d'agriculture. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que vous comprendrez à quoi je fais allusion. Alors en matière de forêt, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle forêt pour demain ? Ça serait bien prétentieux de ma part de vous expliquer exactement quel type de forêt très exactement on aura, mais je vais vous parler un petit peu de ce que l'on constate à l'échelle nationale et à l'échelle de Poitou-Charentes et des recherches que nous menons depuis déjà maintenant quelques années pour essayer d'anticiper les effets du changement climatique. Notre problématique, c'est que toute action forestière s'inscrit a fortiori dans la durée, bien évidemment. Un agriculteur, d'une année sur l'autre, peut décider de changer de culture. Un forestier, ce n'est pas du tout le cas. Et nous agissons sur les 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans à venir, et c'est donc beaucoup plus compliqué. Alors, en matière de foresterie, vous savez que c'est un écosystème relativement complexe. On apprend tous les jours encore dans ce métier-là sur la forêt. On ne sait pas tout, et heureusement, j'ai envie de dire. C'est un écosystème qui se trouve aux premières loges par rapport aux effets du changement climatique. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de la sécheresse de 1976. Tout le monde se rappelle, je le pense, de la sécheresse et de la canicule de 2003. En 2003, la canicule a été telle qu'on a annulé à peu près l'équivalent de 4 années de stockage de gaz carbonique par la végétation. Pourquoi ? Parce que quand il y a canicule, c'est-à-dire plus d'eau, la photosynthèse ne marche plus, donc il n'y a plus de stockage de carbone dans la forêt, et qu'au contraire, il y a une minéralisation de l'humus, il y a un dégagement de gaz à effet de serre, y compris en forêt. Ce qui nous m'incite à dire qu'il faut grandement relativiser les chiffres qu'on a pu avancer en disant, par exemple, en allant voir les forestiers, en disant « Ah, vous êtes des gens super bien, vous allez nous aider à lutter contre le changement climatique, on va replanter ». Et vous avez par exemple des grandes entreprises multinationales qui ont reboisé un certain nombre de milliers d'hectares en disant « Ben voilà, on va lutter contre le changement climatique, on fait notre part de boulot ». Bon, ça peut marcher dans un certain nombre de cas, malheureusement, ça ne marche plus. Donc sécheresse, canicule et tempête, même si le lien, effectivement, et Hervé Le Treut ne me contredira pas, n'est pas formellement établi entre la multiplication des tempêtes et la force des tempêtes et le changement climatique. C'est encore très discuté au niveau des climatologues. Au demeurant, on constate quand même que la tempête du siècle de 1999 a été suivie 10 ans après d'une autre tempête du siècle. Et que, par exemple, les forêts qui avaient été dévastées dans les Landes en 1999 avaient été reboisées à l'identique. Et les jeunes plants âgés de moins de 10 ans, ou 10 ans, allez, on va dire, en 2009, ont été à nouveau couchés. Même cause, mêmes effets. Enfin, voilà. Donc, tempête, sécheresse, canicule, progression d'un certain nombre de parasites. Les parasites ont cette particularité de se trouver très très bien du changement climatique. Si vous leur demandiez de voter, êtes-vous pour ou contre le changement climatique ? Ils voteraient pour. Ils sont les champignons, notamment, sont particulièrement boostés par l'augmentation des températures. Je vais vous en citer un que vous connaissez tous, qui est l'oïdium. Tout le monde a vu de l'oïdium. Hein, depuis qu'on est gamin, on voit de l'oïdium de temps en temps sur des feuilles, notamment de chêne. Une attaque d'oïdium, c'est pas grave. Deux ou trois attaques d'oïdium dans la même année, ça commence à affaiblir un petit peu l'arbre. Hein, c'est un petit peu comme le boxeur. Il prend un coup, il encaisse, il prend deux coups, il encaisse, et puis au troisième coup, il commence à avoir un petit peu mal. Et quelquefois, il voudra bien arrêter le match. Donc l'oïdium, le problème, c'est que comme c'est un champignon et qu'il est favorisé par l'augmentation des températures, s'il apparaît au printemps, l'arbre se défend sans trop de mal. S'il vient au mois d'août, au moment où l'arbre fait ce qu'on appelle ses réserves en sucre dans la sève, si l'arbre doit se défendre contre l'oïdium au mois d'août, il va consacrer toute son énergie à ce type d'action-là et il ne va pas stocker de sucre dans la sève. Or, le sucre dans la sève, c'est l'antigel pour l'hiver à venir. Donc voilà, l'augmentation des attaques d'oïdium qui peut paraître anodin,
comme ça, anodine, est quand même très problématique. Je vous cite d'autres champignons, les phytophthora, vous avez le droit d'oublier le nom une fois que j'aurai fini de parler, mais nous avons des maladies qui commencent à s'attaquer, notamment au frêne et à l'aulne, c'est pour ça que je vous parlais de la forêt à l'aulne, du changement climatique en l'occurrence. Les aulnes sont des arbres non pas strictement forestiers, mais qui viennent en bord de rivière, qui sont extrêmement importants pour les arbres biologiques. Il est atteint par ce champignon qui se développe de manière beaucoup plus conséquente depuis une dizaine d'années. Donc voilà, la forêt cumule, si vous voulez, un certain nombre de problématiques. Je vais vous citer une autre forme de pathogène, une autre forme de parasite que vous connaissez aussi tous et qui, elle aussi, se trouve très bien des fortes températures, sauf peut-être des canicules qu'elle n'aime pas trop, que c'est la processionnaire du pin. Cette chenille absolument superbe, si vous la regardez, mais il ne faut surtout pas la toucher, puisque vous avez des poils urticants et que ça peut poser des problèmes de santé importantes. Eh bien, la chenille processionnaire, il y a quelques années, 10 ans encore en arrière, on l'a trouvée au sud de la Loire. Maintenant, elle a atteint Paris et la région parisienne, en fonction justement de l'augmentation des températures. Et là, c'est pareil, une défoliation d'arbres par la chenille processionnaire, ça va, 2, 3, ça commence à poser un certain nombre de problèmes. Donc, vous voyez que la forêt est quand même, et que nous sommes, nous, forestiers, confrontés devant un certain nombre d'interrogations. Et je vais vous parler maintenant des 3 grandes études que nous menons pour essayer de prévoir les choses. Et je vous expliciterai tout à l'heure ce que veut dire la carte qui est présente sur l'écran. Nous avons constaté, vous savez, que les espèces animales migrent. Eh bien, les espèces végétales migrent aussi. Et notamment, il y a des migrations horizontales, verticales aussi, des espèces végétales forestières. Depuis dans le sud-est de la France, il y a une des espèces forestières majeures qui est le pin sylvestre. Eh bien, on s'est aperçu qu'en 10 ans, le pin sylvestre avait remonté dans le sud-est de 10 mètres en altitude. Alors 10 mètres en altitude, ce n'est pas une course de 100 mètres aux Jeux Olympiques, mais ça va quand même extraordinairement vite pour un arbre qui est d'apparence immobile. Bien évidemment, l'arbre ne prend pas ses racines à son cou pour faire ses 10 mètres en altitude, mais il va trouver les moyens de se déplacer via les semences, via le pollen, etc. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qui seraient un petit peu trop longs d'expliquer. Donc, on assiste à une migration lente des espèces végétales, et on pense qu'une augmentation de plus 2, plus 3 degrés en moyenne, lycée, c'est ce qu'on a vu un petit peu ce matin avec Hervé Le Treut, entraînerait un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres vers le nord d'un certain nombre d'espèces forestières. Ce qui veut dire que le paysage forestier de demain, alors on est d'accord, en 2050, en 2100, on ne sera pas là pour le constater, mais je pense que malheureusement, on risque fort d'avoir raison, le paysage forestier de ces années-là sera très différent des paysages forestiers actuels. Alors ça, c'est un petit focus global. Pour ce qui est de la région Poitou-Charentes, nous avons 2 grandes espèces de chênes. Le chêne pédonculé, que vous connaissez tous, je suis sûr. Si je vous emmène en forêt, vous allez tous reconnaître le chêne pédonculé et le chêne sessile. Et puis vous avez 2 autres espèces de chênes qui sont le chêne vert et le chêne pubescent qu'on trouve aussi dans notre région Poitou-Charentes. Depuis que l'on travaille avec, notamment dans un certain nombre d'ateliers un petit peu satellites du GIEC, je serai à Paris le 3 décembre où on va essayer de discuter et de voir ce que est en train de construire le GIEC en matière de prévision décennale. Donc on essaye de descendre encore un maximum pour justement pouvoir réagir. Quand on dit 2050, 2100, ça paraît très très long. Si on parle de prévision dans 10 ans ou dans 5 ans, ça sera déjà plus facile. Donc on essaye de... on s'est aperçu, donc, on a établi un certain nombre de placettes d'observation un petit peu partout en France, et notamment en Poitou-Charentes, et on s'est aperçu que 25% des peuplements de chênes pédonculés, sur des stations où la réserve en eau utile du sol n'était pas extraordinaire, présentaient des signes de dépérissement. Le chêne pédonculé en Poitou-Charentes, c'est plus de 200 000 hectares. C'est donc déjà, si vous voulez, un signe probant, vérifié, démontré, que le changement climatique commence à avoir des effets sur nos forêts. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? La propriété forestière en Poitou-Charentes est une petite propriété forestière, 1,5 hectare par personne, des gens qui sont très disséminés à droite à gauche, 230 000 propriétaires, qui sont peu ou prou propriétaires de quelques arbres, pour certains évidemment de propriété beaucoup plus importante. C'est donc très difficile de toucher tout le monde et de faire le porté à connaissance nécessaire. On essaye de le faire au Centre régional de la propriété forestière avec les moyens dont on peut disposer. Alors, ce que l'on essaye de dire, c'est que dans les endroits les plus susceptibles justement d'être dépourvus de ressources en eau, remplacer progressivement, alors après vous allez me dire qui, comment et avec quels moyens financiers, ça c'est autre chose, le chêne pédonculé par le chêne sessile, la deuxième grande espèce de chêne de nos pays, de notre région, qui résiste beaucoup mieux à la sécheresse. Donc ça ne peut se faire que progressivement, évidemment, on ne va pas raser tous les peuplements de chêne pédonculé au prétexte qui... certains dépérissent pour aller faire des plantations tout à fait d'une manière mécanique de chêne sessile. On va essayer progressivement de favoriser le chêne sessile, qui est souvent en mélange avec le pédonculé. Et puis on va s'intéresser, donc nous avons établi un certain nombre de placettes de démonstration et on participe à un réseau qui s'appelle le réseau AFORCE, avec deux F, A2FORCE, sur tout l'arc atlantique, depuis l'Angleterre jusqu'au Portugal, ont été installés 50 arboretums de comportement avec les mêmes essences, le même cahier des charges, les mêmes itinéraires techniques. Et on va regarder dans ces 50 arboretums quelles sont les espèces qui vont tenir le coup et quelles sont celles qui vont disparaître, qui ne vont pas tenir le coup dans les années à venir. Là aussi, c'est un travail à long terme. Je ne peux pas vous donner des résultats dans 5 ans parce que les arbres ne seront pas suffisamment grands, on n'aura pas suffisamment de résultats ou de conclusions à énoncer. Mais c'est un travail qui est déjà en cours et qui, peut-être dans l'avenir, va nous permettre d'orienter les choses. Avec les précautions environnementales d'usage, ce n'est pas parce qu'une espèce qu'on aura plantée va tenir le coup par rapport à la sécheresse qu'il faudra systématiquement l'installer chez nous parce qu'elle peut poser des problèmes environnementaux. Il y a quelques années, autre anecdote quand même, je ne dirai pas qui et où, nous avions eu quelqu'un d'extrêmement compétent qui a fait un très beau montage diapositive, un petit peu comme celui d'Hervé, sur le changement climatique. On s'est dit, chouette, c'est quelqu'un qui a tout compris. Et puis, qui disait à la collectivité à laquelle elle s'adressait, bah, écoutez, justement, en fonction du changement, les espèces végétales que vous avez chez vous donc sont très sensibles. Nous, on a la solution. On a en pépinière 35 000 eucalyptus. Il est bien évidemment qu'il n'est pas question chez nous de planter de l'eucalyptus, qui est une espèce qui pose des problèmes redoutables en matière de consommation d'eau, qui est une véritable bombe incendiaire à elle toute seule. Et je rappellerai les incendies dramatiques qui ont ravagé le Portugal il y a quelques années, avec près d'une centaine de morts, parce que quand un feu part dans une forêt d'eucalyptus, vous ne pouvez pas l'arrêter. En plus, c'est un désert biologique, il serait difficile également de réimplanter le koala dans le Poitou. Je ne vois pas trop les choses. Donc, on doit faire attention un petit peu, même si, là aussi, quelquefois, avec mes amis naturalistes, je suis à la fois naturaliste et forestier, peut-être qu'il faudra trouver des compromis dans les forêts de l'avenir, c'est-à-dire peut-être utiliser des espèces qui ne sont pas strictement locales en Poitou-Charentes, mais avec beaucoup de précautions, si on veut avoir des forêts encore vivantes demain. Alors, donc, grande recherche sur le comportement des espèces. Je vous parlais du chêne vert et du chêne pubescent. Le chêne vert, traditionnellement, c'est une essence méditerranéenne. Je vais vous en parler à propos de la carte qui est là. Il était en limite nord de répartition à Poitiers, sur les falaises du Porto. C'est notre ami botaniste qui avait souligné ça. Et probablement qu'il va remonter, lui aussi, largement au nord de la Loire et probablement à l'intérieur des terres, alors qu'on le trouvait... encore un petit peu chez nous sur le littoral de Charente-Maritime et qui commençait à être aussi présent sur le littoral de la Vendée. Mais nous avons lancé une étude cette année sur l'autre chêne petit chêne de pays qui est le chêne pubescent. Chêne pubescent, les forestiers s'y intéressaient pas parce que c'était réputé être un bonsaï géant qui poussait sur des sols maigres, etc. Donc ça donnait du bois de feu à la grande limite. Ça ne pouvait pas donner des produits de qualité comme le donne donc le chêne pédonculé ou le chêne sessile. Eh bien, on s'intéresse à ce chêne pubescent. On va essayer de rechercher des peuplements porte-graines en Poitou-Charentes. On va essayer d'élargir les connaissances sur l'auto-écologie de cette espèce-là. Et on bénéficie pour ça d'un financement, parce qu'on est comme tout le monde, on cherche des sous. Ça n'étonnera personne. On bénéficie d'un financement de la Fondation Lyséa Biodiversité. Qui nous permettra pendant 3 ans de travailler sur cette thématique-là. Là aussi, l'enseignement, c'est que, et vous me pardonnerez la facilité de la formule, telle espèce disparaît, telle espèce est sensible, telle espèce résiste. Le mot d'ordre en matière de foresterie pour les forêts de demain, bien sûr, c'est mélanger au maximum les essences. Et par exemple, si la station le permet, c'est une station en matière de foresterie, c'est un sol particulier en équilibre avec le climat, etc. Si la station le permet, essayez de faire le plein d'essence, avec un S, c'est-à-dire d'avoir autant d'espèces d'arbres que possible dans la forêt pour assurer, ce qui est un trop joli mot, la résilience de la forêt. Résilience, ça rime avec résistance. La résilience, si vous voulez, pour vous expliquer ça très rapidement, c'est la capacité d'une forêt à se régénérer toute seule après un accident biologique ou climatique. Voilà, donc recherche sur le chêne pédonculé, recherche sur le chêne pubescent, ça fait partie des grands sujets qui nous préoccupent et qui sont notre actualité en Poitou-Charentes. La forêt en 2050 ou en 2100 chez nous ne sera pas exactement la même. Le hêtre va disparaître totalement de nos régions, même s'il était d'ores et déjà, il y a 30 ans, il était déjà sur le fil de rasoir. Hein. Vous aviez du hêtre, tout le monde, enfin un bon nombre d'entre vous connaissent peut-être la forêt de Chizé, dans les Deux-Sèvres, qui est devenue heureusement une réserve biologique intégrale, parce que c'est un formidable laboratoire évolutif à ciel ouvert. Et que là, c'est passionnant parce qu'on a plein d'observations à faire. Eh bien, la forêt de Chizé était dominée par le hêtre. Le forestier l'avait favorisé. Manque de chance, le hêtre est une essence qui a besoin d'une forte humidité atmosphérique la plupart de l'année. Et que Chizé dans les Deux-Sèvres, déjà à l'époque, en hiver, il faisait froid, en été, il faisait chaud. Mais là, bien évidemment, les choses se sont accentuées. Il fait moins froid en hiver, mais beaucoup plus chaud en été. Donc le hêtre va disparaître. Et je vous dirais deux mots très rapides sur le Douglas, ce que les marchands de bois appellent parfois le pin de l'Oregon, c'est plus noble, avec lequel on fait les mobs. Alors les mobs, ce n'est pas les engins qui vous amusent le samedi soir en tournant au pied de l'immeuble, c'est la maison ossature bois, bien sûr. Donc le Douglas, c'est une espèce de bois extrêmement intéressante. Il a besoin d'au moins 750 mm d'eau, 800 mm d'eau par an. On est largement en deçà de ces chiffres-là en Poitou-Charentes. Donc il va peut-être se cantonner aux franges de la Charente-Limousine, mais en tout cas, il ne sera plus question d'avoir des peuplements de Douglas à l'intérieur du Poitou, ça ne marchera plus. Hein, donc là aussi, il faudra trouver d'autres choses. Utiliser des essences un petit peu oubliées. Je pense au cormier. On a oublié le cormier, c'est une essence forestière, ça ne fait jamais des peuplements ou des forêts. Ça fait partie du cortège arbustif de nos régions. La lisière terminale, c'est la même chose. Le merisier, encore une fois, là je replaide pour des forêts mélangées et diversifiées. Alors je vais vous parler de la carte que vous avez à l'écran maintenant, justement pour essayer de visualiser un petit peu ce qui peut se passer dans les années à venir. On se base là sur un des scénarios du GIEC. Comme le disent les gens du GIEC, hein, on n'est pas Madame Irma, ce sont des prévisions. Mais grossièrement, on se dirige vers ce type de choses. Il y a une marge d'incertitude, mais la marge d'incertitude, elle est quand même extrêmement minime et elle est de plus en plus minime, j'ai envie de dire malheureusement. J'aime bien dire aussi, vous me le permettrez, autrefois certains contestaient allègrement le changement climatique, mais vous pourrez noter qu'allègrement peut s'écrire en deux mots. J'aime bien celle-là, donc je la refais à chaque fois que je veux. Donc vous avez sur la carte les aires de répartition, hein, les groupes biogéographiques d'essence, c'est-à-dire que par exemple, ça passe bien, relativement bien à l'écran. Le rouge, par exemple, c'est vous aviez donc la situation 2005 et la situation probable, prévisible, très probable, plus que probable, en 2100. Et vous voyez que le rouge, ce sont les essences méditerranéennes. Eh bien, vous voyez la place que probablement les essences méditerranéennes vont occuper sur le territoire de la métropole, hein, je me limite à la métropole, l'aire de répartition explose complètement. Hein, ils vont occuper pratiquement la moitié du territoire français. Et encore une fois, 2005-2100, ce n'est même pas la durée de vie d'un arbre. Donc c'est extrêmement rapide. Ce qui nous fait dire d'ailleurs que de temps en temps on nous dit oui mais bon vous parliez de remplacer telle essence par l'autre, est-ce que les arbres ne sont pas capables de s'adapter? On parlait d'adaptation aujourd'hui, ça va trop vite et tout le monde sait aussi qu'en biologie les mutations, la plupart des mutations sont létales, ne marchent pas, il y en a quelques-unes qui tiennent le coup et qui font que les espèces progressent, etc. Mais pour ça il faut des dizaines voire des centaines d'années, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Là, le mécanisme est tellement rapide que je doute fortement que les arbres soient susceptibles de s'adapter à temps. vous aviez en bleu, sur la partie, la partie gauche de l'écran, les espèces montagnardes. Eh bien, vous voyez que le territoire des espèces montagnardes, bien évidemment, se rétrécit de plus en plus. Alors, quand je vous parlais du pin sylvestre tout à l'heure, qui remontait de 10 mètres en une décennie, ce qui est extrêmement rapide, une espèce qui remonte, elle va forcément prendre la place d'autre chose. Ça va bousculer un petit peu des équilibres ou la façon dont les espèces se répartissent. Ça va être un petit peu un jeu de chaise végétale, hein, jeu de la chaise musicale, c'est la même chose. Il va y avoir un bouleversement un petit peu des communautés forestières au fur et à mesure que les espèces vont se déplacer. Ces migrations-là, elles vont avoir des impacts à la fois sur les espèces animales et sur les espèces végétales. Sur le jaune, vous voyez que le jaune, c'était les essences forestières des grandes plaines de l'Ouest notamment. Eh bien, le jaune est singulièrement rétréci à l'horizon 2100. Et le vert clair, qui étaient les espèces forestières, alors les grandes hêtraies de l'Est de la France, risquent fort, là aussi, de se retrouver avec une portion très congrue. C'est dommage parce que le hêtre, c'est un bois de très grande qualité. Et que, par exemple, la plupart des mobiliers scolaires sont faits en hêtre. Hein, c'est un bois très résistant, qui a une valeur certaine, même si, paraît-il, c'est difficile de le vendre en ce moment, le hêtre. C'est une essence qui a de grande qualité. Bon, voilà, malheureusement. Alors, il va subsister, il ne va pas disparaître totalement, là, encore une fois, dans des fonds de vallons, sur des bas de pente, en fait, dans des endroits où il va trouver un petit peu d'eau et des températures un peu moins excessives en été. Mais en tant que peuplement, il risque fort de régresser beaucoup. Et puis vous aviez en orange sur la diapo les essences forestières du sud-ouest qui vont là remonter très largement aussi au nord de la Loire, mais avec des conséquences différentes. Pardon, il reste 5 minutes. On voit qu'elles risquent de réoccuper une portion du territoire beaucoup plus importante, mais avec un petit hiatus. Alors après, par exemple, je vais vous parler du pin maritime. Alors les amateurs de pin maritime voient la photo, la diapo, ils nous disent « c'est très content, le pin maritime va y avoir tout ». Sauf que le pin maritime dans le sud-ouest, là où il était bien en équilibre, où il pouvait valoriser les sols pauvres, etc., va commencer à voir sa productivité décroître parce que les résineux, d'une manière globale, se défendent beaucoup moins bien que les feuillus par rapport aux températures extrêmes et aux sécheresses. Le résineux ne peut pas fermer les stomates de ses épines, hein, de ses feuilles transformées, de la même façon que le feuillu. Et puis le feuillu, quand il fait très très sec, vous l'avez tous vu en 2003, les feuilles jaunissent, se dessèchent et tombent. Et l'arbre rentre en sommeil, finalement. Mais il ne transpire plus d'eau, il consomme pratiquement plus d'eau puisqu'il n'a plus de feuilles. Le résineux, il ne peut pas faire ça. Et quand vous voyez un résineux qui a les aiguilles qui tombent ou qui deviennent rouges, la plupart du temps, c'est qu'il est condamné. Hein. C'est un symptôme qui est beaucoup plus inquiétant que le jaunissement des feuilles de feuillus. Donc vous voyez que le paysage forestier va se trouver quand même grandement modifié. Vous avez vu au niveau des essences, j'en termine par là, les essences de la région Poitou-Charentes, on la voit très bien sur la diapo, sur ce qui risque de se passer en 2100. On est en plein dans le rouge là pratiquement. C'est une des régions de France où le fameux chêne pédonculé, je reviens à ça, risque de souffrir le plus. On concentre. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est un fait. Au niveau climatologique, on est en plein dans cette chose-là. Voilà. Dernier mot. Et puis de toute façon, je commence à tousser. Donc voilà, ça sera bien aussi pour les gens. On a développé, si vous le voulez, il y a une revue qui s'appelle Forêt Entreprise, qui est la revue de l'Institut pour le développement forestier. Vous pouvez télécharger ça sur Internet ou si vous avez besoin de renseignements, moi je serai à votre disposition pour vous en reparler. Le dernier numéro explique une des dernières actions qu'on est en train de faire. C'est un programme qui s'appelle BioClimSol. Alors bio c'est comme biodiversité, clim comme climat et sol comme sol. BioClimSol, et on est en train d'établir à l'échelle de la France, jusqu'à y compris à une échelle communale, des cartes de vigilance pour toutes les essences forestières. Quand vous regarderez la carte, si votre commune ou votre région elle est en rouge pour le chêne pédonculé, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'insister et il faudra faire autre chose. Si la carte est restée en vert, ça veut dire que les situations vont rester favorables, etc. Donc on est en train de construire des modèles climatiques et des modèles prévisionnels qui vont pouvoir être mis à disposition de tout à chacun, y compris des propriétaires forestiers, pour savoir quel type de forêt demain ils vont pouvoir favoriser ou gérer. Voilà, merci.
Merci. Bien, on a quelques instants pour des questions.
Merci beaucoup. J'ai une question d'ordre très technique par rapport à la carte 2100. Donc j'imagine qu'il y a un modèle derrière qui... Alors, comment expliquer la discontinuité de la zone rouge, de la projection, et le maillage apparemment qui est très précis dans les projections que vous arrivez à avoir?
Oui, alors très précis, ça c'est un maillage qui a été fait par l'Institut pour les développements forestiers en lien avec l'INRA et les de Bordeaux-Cestas. Hein, donc c'est pas moi qui ai fait ça. Mais il se trouve que la région Poitou-Charentes a des particularités climatologiques qui fait qu'effectivement on a une zone rouge là qui est très déconnectée du reste, parce qu'on a des types de sols très particuliers, parce qu'on se trouve à un carrefour un petit peu biogéographique et avec des incidences au niveau des courants aériens qui font que les températures seront beaucoup plus intenses chez nous et avec des sols moins pourvus en réserve en eau. Alors que si on descend un petit peu et qu'on revient vers le massif central, on a des endroits où la disponibilité en eau pour les essences d'arbres est plus importante. Donc on a été assez surpris de ça, effectivement, mais on l'a démontré sur le terrain et sur les placettes. Donc on a pu voir que... Alors après, précis, oui, mais ça ne va pas être au centimètre ou même à 100 mètres près. Hein. Ça va être de l'ordre du kilomètre ou peut-être de 2 ou 3 kilomètres. Mais grossièrement, on va se retrouver avec ce type de discontinuité. Voilà.
Roland Quignot, Vienne Nature, Poitou-Charentes Nature. Merci Alain Persuit de son exposé sur la forêt. Moi, je voudrais souligner que ce qu'il a dit là pour les essences forestières, c'est également vrai pour d'autres éléments de la faune, bien sûr, et de la flore, et qu'on voit déjà dans les comportements de certains oiseaux, insectes, etc., des changements. Hein. Et comme le disait aussi Hervé Lotto ce matin, toutes les espèces ne vont pas pouvoir suivre le rythme que nous impose cette modification de l'atmosphère. C'est d'autant plus important donc de permettre aux espèces de migrer en altitude et en altitude. Et effectivement, c'est peut-être le but aussi de la stratégie nationale biodiversité, en particulier des trames vertes et bleues, hein, qui sont censées donc permettre d'avoir des corridors écologiques entre des places riches en biodiversité et de permettre la migration de certaines espèces. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir beaucoup de disparitions. Il faut donner sa chance à la faune en particulier de pouvoir s'adapter.
Absolument, c'est bien pour ça que la forêt, pour moi, c'est surtout pas un simple assemblage d'arbres. Je dirais juste un tout petit mot d'une chose que j'ai oublié d'évoquer, mais le temps nous presse un petit peu. Pour ne plus utiliser d'énergie fossile, on en a parlé aussi plusieurs fois, on promeut beaucoup l'énergie bois, chauffage, énergie bois. Si l'on sort tout le bois qui devrait rester à pourrir en forêt pour assurer la fertilité des sols et qui en même temps accueille des cortèges animaux extrêmement précieux et importants en termes d'insectes xylophages, sapo xyliques, je parle aussi des oiseaux pour les piscidés, notamment la famille des pics. Si on sort tout ce bois qui devrait rester à terre et pourrir pour alimenter les sols et la biodiversité, pour faire la plaquette forestière en disant la plaquette forestière est extrêmement intéressante, elle pollue beaucoup moins que du pétrole, on risque fort à un moment donné d'arriver à des situations de conflit entre la préservation de la biodiversité et la production d'un chauffage que tout le monde ne pourra pas adopter. La ressource, je vous rappelle qu'au 19e siècle, la forêt française était tombée à moins de 9 millions d'hectares. Pourquoi ? Parce que l'urbanisation n'était pas encore aussi développée que maintenant, mais c'était surtout pour le bois énergie. Donc en tant que forestier, évidemment, le bois énergie, je le défends, mais avec un message de précaution extrêmement fort, extrêmement prégnant, ça ne doit pas faire oublier que la forêt est un écosystème, quoi. Donc voilà, tout le monde ne pourra pas se chauffer au bois, la ressource est un véritable problème, parce que ça impacte directement la biodiversité dont vous parliez, les espèces animales et végétales qui sont constitutives du milieu forestier.
Bon, deux petites questions. Suzanne Lachaud. Vous avez parlé donc d'essayer d'introduire des espèces qu'on ne cultive pas couramment, le cormier, la lisier, le merisier. Je pense par exemple à la lisier terminale. Je me demande si, par exemple, dans notre région, il serait apte à un développement intéressant, parce que je l'ai vu très, très développé, très beau, dans les étrées de l'Est, justement, oui. Alors que sur les sols calcaires et secs du Poitou, il reste relativement rachitique et ne pousse pas beaucoup. Alors, deuxième question, c'était est-ce que vous avez des renseignements à nous donner sur le comportement de d'autres espèces que vous n'avez pas citées et qui me semble qui prolifèrent actuellement. Maintenant, c'est peut-être pas des vraies espèces forestières. Je pense à l'if et au lauriertain.
Oui, alors l'if, ce n'est pas une essence forestière typique de notre région. Hein. On l'a retrouvé surtout en montagne. Il a besoin aussi d'une humidité atmosphérique à une certaine période de l'année. Et en tout cas, ce n'est pas une espèce qui constitue des peuplements à part entière, ni qui est exploitée par les forestiers. Le lauriertain, c'est aussi, un échappé de milieux urbanisés ou anthropisés. Il a strictement rien à faire dans nos forêts. Le laurier cerise aussi, le laurier palme qu'on voit aussi de temps en temps en forêt. C'est parce qu'il était plus ou moins disséminé sans qu'on forcément on l'ait cherché. Vous me parliez de la lisière terminale, mais de toute façon sur des sols calcaires, ça ne donnera jamais un très grand et un très bel arbre. Par contre, sur des sols plus argileux, plus frais, plus profonds, ça peut donner des produits de qualité. J'en connais un certain nombre en Poitou-Charentes. Ça ne constituera jamais des peuplements, c'est toujours à l'état disséminé hein, dans les forêts, mais ça fait partie des essences secondaires présentes qu'il convient pour moi de favoriser parce que, pour des raisons à la fois de biodiversité, les alizes, c'est très apprécié par les oiseaux. On peut même en faire de la confiture ou de l'agnole, d'ailleurs, entre parenthèses. Les anciens le savaient bien. Et ça donne en même temps un bois de très très grande qualité, puisque les tourneurs et les ébénistes connaissent bien ce bois-là. C'est un bois extrêmement précieux. Le cormier, n'en parlons pas. Le cormier, ça vaut 100 fois ou 1000 fois plus cher que du chêne quand c'est un arbre de qualité. Mais voilà, c'est des arbres, des essences à prendre en compte et à réhabiliter un petit peu.
Il faut penser aux haies aussi.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Pas d'autres questions ?
La dernière.
Oui. Il y a une actualité là-dessus.
Il y a une actualité sur les haies, puisque en Poitou-Charentes, il y a trois structures. Une qui s'appelle le Conservateur Botanique National Sud-Atlantique, qui opère en Aquitaine et en Poitou-Charentes, voyez précurseur. Vous avez le Conservatoire des espaces naturels, le CREN, et la troisième particularité, c'est PROMES, c'est une association très efficace en Poitou-Charentes qui participe à la replantation de haies. Eh bien, ces trois structures travaillent depuis 3 ans sur l'implantation dans la région d'une structure d'essence locale pour favoriser des haies qui seraient faites avec des plants qui proviendraient du Poitou-Charentes et non pas du genre thuya, piracanta, ce qu'on a décrit tout à l'heure, hein, ce qui abonde partout dans le périurbain. Donc cette filière est très bien partie. Le conservateur botanique vient de produire un guide remarquable sur les plantes d'espèces indigènes d'origine locale, un document assez conséquent, par Internet, si vous le voulez, c'est 10 mégaoctets. Et puis, en ce moment, la région accompagne ce programme. Le frein actuel étant l'impossibilité pour le moment de faire pousser ces plants en Poitou-Charentes. Donc, ils sont récoltés par ces structures. Et ensuite, ils sont portés en Aquitaine dans des grandes pépinières pour qu'ils soient produits. Ce qui est un peu dommage de ne pas avoir le pouvoir local de produire ses propres plants.
Merci Alain.
D'accord, bien. Eh bien, la parole est à Francis. Château et non. Aussi, oui.
C'est bon.
Vas-y Francis. Bon, bien. Donc notre ami Francis Chateau-Renaud qui va parler de changement climatique et dynamique des controverses.
Ouais.
Donc, et il est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales.
Merci beaucoup. D'abord bravo pour cette organisation. Merci. Parce que c'est d'un très bon niveau et j'apprends plein de choses. J'ai presque peur de vous décevoir parce que... Moi, j'aime bien quand on rentre dans les choses, et là, c'est vrai que ces deux derniers exposés en particulier, on est rentré dans des milieux, bon, l'architecture d'un côté et la forêt, donc peut-être deux opposés. Alors, j'espère rendre justice à ces milieux, puisque ce que j'essaye de développer avec d'autres depuis quelques années, c'est justement un peu un contre-modèle de sociologie des controverses, c'est-à-dire en disant que les controverses sont positives dès lors qu'elles permettent aux milieux, avec un X et à toutes sortes de milieux, de surgir dans les arènes publiques, dans les espaces publics, et de révéler des propriétés qui étaient méconnues, inconnues, méprisées, et donc de forcer à l'attention aux choses. Donc j'ai prévu en 4 points, je vais aller très vite et je vais sûrement être décevant parce que je vais passer trop vite sur certaines connexions. Ça sera une invitation peut-être à regarder les travaux ou à continuer la discussion. Bon, c'est un truc de sociologue, là j'essaye de monter un peu en généralité, je ne suis pas le seul, j'ai remarqué. Hein. Pardonnez-moi ces raccourcis, mais c'était histoire de vous montrer un peu un parcours, puisque je suis un peu en train de réinterroger les travaux faits depuis les lanceurs d'alerte, puisque bon, dans mon laboratoire, on avait lancé cette notion qui a eu un certain succès, on peut dire, et toutes les controverses depuis qui sont venues remplir nos travaux multiples. Donc, je vais partir de ce problème qui est pour moi le global, les visions du futur et les cosmopolitiques qui vont avec, c'est-à-dire cette espèce d'obligation qu'on aurait aujourd'hui de penser d'abord global, hein, et évidemment qui pose des problèmes aux sciences sociales, parce que on doit partir du plus général pour venir se poser sur des terrains, comme si en fait le terrain était une illustration, hein, comme pour les stratèges militaires, hein, l'Afghanistan, un détail. Oui, enfin, les détails parfois se révèlent un peu difficiles à domestiquer. Je vais ensuite passer par un deuxième niveau, celui que j'ai beaucoup développé ces dernières années. Donc là, il y a des textes, des publications, il y a des conférences, vous trouverez tout ça. C'est au fond passer de l'opposition globale-locale, prendre les choses en termes de processus, et en termes de trajectoire, et développer ce que j'ai appelé une socio-balistique, une balistique, c'est-à-dire une science des trajectoires. Regardez comment certains problèmes parviennent à s'imposer, d'autres retombent, ont des effets dérivés. Les militaires ont des termes pour ça, d'ailleurs. Hein. Vous visez quelque chose et vous avez des cibles dérivées ou des... toutes sortes d'effets inattendus, et de regarder comment finalement tout ça se mêle et produit cette espèce de sentiment que tout est en controverse aujourd'hui, hein, puisque là on a vu tout à l'heure des exemples de contradictions, hein, forêt, usage des ressources, on peut en rajouter, moi je suis périgourdin, donc je passe mon temps à arbitrer entre les agriculteurs, des chasseurs et des écolos, c'est assez marrant, et des bobos parisiens, enfin moi je ne suis pas parisien d'origine, donc je me fais respecter, mais enfin quand même, ça devient compliqué, hein, les usages de la forêt par exemple. Donc, les millions d'interactions, c'est ça que je vais essayer de mettre en évidence, sont les lieux où vont se faire les rapports de force, les rapports de puissance entre acteurs qui vont rendre possible ou pas tous ces beaux dispositifs travaillés par des grands programmes. Moi, je travaille beaucoup sur la santé environnementale, mais on le voit bien, hein, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le climat. On a des plans climat, on a des plans biodiversité, voilà, on a des grands programmes. Tout ça est très beau sur des plaquettes, dans des colloques. Et puis sur le terrain, évidemment, on a ces frictions, hein, puisqu'on a des milieux qui doivent composer et parfois entrent en conflit. Je ne veux pas prendre, moi-même faire allusion à des conflits assez violents ces derniers temps autour de sites ou de projets où on a suffisamment d'exemples. Et je finirai par remonter un peu en généralité, puisque c'est quand même le problème, ce n'est pas non plus de rester dans les localités, en proposant de concevoir, donc, c'est un travail qu'on va finir avec un collègue, j'espère sous forme de livre, une sociologie politique des entrepôts-scènes. Alors ça, c'est une allusion directe à ce que certains collègues ont joué comme marketing scientifique, l'anthropocène. Moi, ce que je vois, c'est des entrepôts, donc des humains quand même d'abord, avec de multiples scènes, donc une pluralité des scènes, et pas une anthropocène comme ça qui serait observable. Et donc, évidemment, ça, c'est le défaut du sociologue peut-être, et ce que je voudrais partager. Donc, le global. Alors, c'est juste une invitation. Quand vous voyez des discours ou des constructions du futur à l'échelle globale, on a aujourd'hui une production intellectuelle à l'échelle mondiale, en français, en anglais, en pleine langue, sur le futur de la planète, sur les grands enjeux, hein, etc. Et donc on a commencé à faire un corpus, en fait, pour essayer de regarder comment se construisent, hein, ces opérations de globalisation. Là, vous avez un exemple, c'est Ray Hammond, qui vous dit qu'il y a 6 facteurs majeurs de changement. Oui, c'est le thème, moi je me suis adapté. Donc chaque acteur va essayer comme ça de définir au fond les priorités, les axes, ce qui importe. Vous voyez, il y en a 6. Donc l'explosion de la démographie, on a tendance à oublier, donc le dossier démographique, sujet qui fâche quand même aussi, hein, qui pose des problèmes énormes. Les modifications des démographies sociétales, c'est-à-dire les compositions des sociétés, en fait, tout simplement. Les changements climatiques et environnementaux, vous voyez, les pluriels sont intéressants, hein, regardez. Bon, la crise énergétique, qui est aussi un sujet de controverse très fort, la globalisation croissante, on l'a vu ce matin, je passe très vite, et l'accélération du développement exponentiel de la technologie, là aussi. Donc voilà un exemple. Un autre exemple, j'espère que c'est lisible, là c'est le World Economic Forum, donc là c'est les acteurs du néolibéralisme, hein, c'est ceux qui pensent le futur économique de la planète, et vous voyez, ils essayent, ils font venir des groupes d'experts, hein, ils croisent les points de vue, et ils essayent de structurer un peu un espace de quels sont les risques majeurs, au fond, auxquels on va être confronté dans le futur. Tous les ans, ils refont l'exercice, donc c'est intéressant de regarder comment ça évolue. Et vous voyez que le changement climatique est au maximum, puisqu'il est à la fois extrêmement probable et son impact sera maximum. Moi qui travaille beaucoup sur les maladies environnementales et les expositions sanitaires, c'est intéressant parce que les chronic diseases, les maladies chroniques, c'est le contraire. C'est pas un sujet pour les grands patrons et les chefs de l'économie. Donc vous voyez, il y a une structuration. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder comment chaque acteur, et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de pilote à bord, hein, c'est-à-dire que malheureusement, je suis désolé pour ceux qui pensent qu'il y a un petit groupe qui contrôle le capitalisme financier et qui contrôle la planète, non. Dès qu'on regarde d'une arène à l'autre, on a en fait des compositions, des constructions extrêmement différentes, et c'est fort intéressant de les suivre. Donc vous voyez que, moi mon problème, ça va être de regarder comment les acteurs font avec toutes ces sources de problèmes, comment ils les hiérarchisent, et les types de disputes que ça va générer, et l'impact que ça va avoir, évidemment, quand vous voulez mobiliser des citoyens, s'ils n'ont pas les mêmes hiérarchisations de problèmes que vous, évidemment, les malentendus et les conflits vont aller. Bon, je prends pas l'exemple de l'écotaxe, ça serait quand même trop facile. Ça, je le laisse pour la discussion. Définition de l'anthropocène, justement, moi, je pars de là, j'essaie d'être assez critique. Surtout, c'est critique sur l'usage du « nous ». On a aujourd'hui, alors ça, c'est Bruno Latour en particulier qui l'a repopularisé par un texte dont j'avais été un relecteur en 1992, 11, je ne sais plus, qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes ». Et je lui avais dit « C'est qui, nous ?» Il ne m'a jamais répondu « Nous, c'est nous, enfin c'est nous, tout le monde, enfin, ou c'est nous, les Européens, ou c'est nous, les anthropologues, ou c'est nous, les Parisiens, anthropologues, ou c'est nous, le monde. » Alors, qui est ce sujet universel? Et en fait, un des problèmes, je crois que Ami, finalement, l'a bien illustré ce matin, hein, c'est cette composition du « nous » qui serait posée en entrée comme un sujet évident, qui aujourd'hui, évidemment, est à retravailler et à rediscuter, et à remettre en critique. D'autant qu'en fait, ce « nous », il se concrétise. Par exemple, on travaille beaucoup avec le CNES sur comment l'environnement est saisi par les objets satellitaires et en quoi le satellite modifie notre regard, le type de monitoring, d'image, etc., que produit le satellite sur l'environnement. Et en fait, les projets d'observation satellitaire au niveau européen, là, c'est Copernicus, hein, c'est le GEMS, c'est le gros dispositif, ça va être la rhétorique, c'est celle de la sentinelle. Donc c'est intéressant, la sentinelle, c'est une notion militaire. C'est une notion de... Donc il y a une hiérarchisation, vous mettez des points d'observation et vous fixez le regard vers les choses. Ça veut dire que les milieux dont on est parti tout à l'heure vont être en fait sous surveillance de manière verticale. Alors là, c'est une illustration radicale du top-down, en fait, dans les instruments eux-mêmes. Et en même temps, les mêmes acteurs vont devoir commencer à travailler sur des connexions assez compliqué. Il n'y a pas si longtemps, il y avait donc une rencontre entre le GIEC et la fameuse plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, c'était une première, paraît-il. Enfin, en fait, ici, il y a déjà eu plein de rencontres sur le terrain, où, voilà, encore une fois, mais là, c'était officiel. Il y avait Ségolène Royal, je sais où je parle. Hein, il y avait des gens très importants, vous voyez, Jean Jouzel, par exemple, etc. Bon, donc, on était là, on officialisait la rencontre. Et une des grandes questions, c'est est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité la même chose que pour le climat? C'est-à-dire construire des équivalents généraux, des instruments, des indicateurs qui vont tourner au niveau global. Et ensuite, c'est simplement une question de déclinaison, d'où ma question perverse ce matin à Hervé Le Trott, avec qui je discute depuis longtemps. C'est est-ce qu'on peut décliner comme ça en descendant en échelle? Vous faites un mini GIEC, hein, à l'échelle d'un quartier, vous faites votre GIEC de quartier, et en fait, vous répliquez. Non, plus on descend en échelle, comme ils disent, hein, c'est une expression qui est d'ailleurs à discuter, et plus le type de complexité à laquelle vous avez affaire n'a plus rien à voir. D'ailleurs, j'ai bien aimé la forêt, on en apprend tous les jours, effectivement, ça je garantis. Moi qui sais trouver les cèpes, j'apprends des choses sur toutes sortes de champignons que je ne connaissais pas. Bref, ça bouge, ça change, les milieux sont tout le temps en friction, en interaction, et cette complexité-là n'est pas de même nature que la question des scénarisations et de la stabilisation des scénarios fabriqués à partir d'un modèle qui a été long d'ailleurs à mettre en place, tout ça a été décrit. Donc j'en viens maintenant au problème qui m'intéresse, c'est que finalement j'observe des processus qui sont fondamentalement contingents. Ils peuvent avoir lieu, c'est ça la contingence, comme ils peuvent ne pas avoir lieu. Il n'y a pas de déterminisme. Fukushima n'était pas absolument fatal. Enfin, c'est en tout cas l'hypothèse de travail que je prends. Il y a des gens qui travaillent à la sécurité nucléaire, ils peuvent se planter,
je ne suis pas Jean-Pierre Dupuis, si vous voulez, je ne vous annonce pas la catastrophe absolue. Elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Évidemment, le catastrophisme éclairé, c'est dire qu'il faut faire l'hypothèse qu'elle va avoir lieu. Évidemment, quand on fait ça, l'attention au milieu et aux choses, et à tout ce qui se construit comme alternative devient peu intéressant. Vous avez au contraire intérêt à porter encore plus fort votre signal catastrophiste. Ça, c'est aussi un message, parce que j'ai fait des séminaires avec FNE. C'est un message aussi pour les ONG. Attention parfois à modérer. Alors, il se produit des choses. Là, c'est le lac Mégantic au Québec. Vous avez sûrement entendu parler de cet accident assez monstrueux d'un train donc, transportant des produits hautement inflammables, chimiques, et venant s'écraser au milieu d'un village du Québec et rayant de la carte une partie du village et ses habitants, 45 morts, qui a évidemment suscité une controverse énorme au Québec et au Canada sur le transport des produits dangereux, sur quel type d'économie on veut, c'est quoi les habitants pour vous, etc. etc. Donc, vous voyez, la contingence, ça réveille évidemment les forces en présence, je passe vite, et catastrophe technologique, catastrophe naturelle, on en a parlé ce matin, là, on est dans une zone frontière, hein, puisque naturelle, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Il y a des choix politiques qui ont été faits, il y a le problème, évidemment, de la répétition, et vous avez un ouvrage que je recommande où, justement, on voit bien que la catégorie même de catastrophe naturelle est mise entre guillemets. Ça devient de plus en plus... Donc, on voit bien que finalement, l'anthropocénisation se fabrique hein, dans ces scènes-là. Les humains ont artificialisé, ils ont fait des choix, et l'irréversibilité est produite par ces processus. Alors, moi, j'en tire l'énoncé suivant. Il y aura toujours des catastrophes et des ruptures. Ça, je crois qu'on peut, sans trop de risques, le dire. Il n'y a pas besoin d'être Madame Irma, justement, ni d'être non Madame Irma. On est à peu près sûr qu'il y aura toujours des catastrophes. Ce qui n'a absolument pas pour effet de nous obliger à être catastrophistes. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est tout le travail que font des acteurs pour rattraper les situations. Et je me suis accroché avec certains acteurs politiques que j'aimais bien ou qui m'aimaient bien plutôt. Je crois qu'il y a un malentendu, notamment Jean-Yves Le Déo, qui a voulu pousser un principe d'innovation en face du principe de précaution. Et je lui dis, moi, ce que j'aimerais, ce que beaucoup de gens aimeraient, c'est un principe de maintenance. C'est-à-dire de faire attention aux choses. Et par ailleurs, moi qui prends beaucoup la ligne de chemin de fer Paris-Brétigny-Brétigny-Limoges, je peux vous assurer que si on faisait un peu plus attention aux choses, certaines catastrophes ne se produiraient pas, etc. Donc, le catastrophisme est risqué parce qu'il peut aveugler sur tout le travail que font des acteurs pour faire attention aux choses et justement se mobiliser sur ces milieux qui subissent des chocs, etc. Alors, je passe vite. Moi, classiquement, depuis une vingtaine d'années, je travaille sur le nucléaire. C'est un des dossiers principaux que j'étudie. J'en ai étudié beaucoup d'autres, vous le verrez. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que le nucléaire est avancé dans les rhétoriques et comme peu émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, c'est toujours mis dans le bouquet. D'ailleurs, le GIEC, dans son dernier rapport, tire un peu dans ce sens-là. On a en France un réseau qui est pour sauver la planète, mais avec du nucléaire. Hein. Je suis beaucoup accroché avec eux. Et en fait, progressivement, on se rend compte que si le processus de réchauffement se produit, évidemment, les centrales vont être vulnérabilisées. C'est maintenant établi par pas mal d'études. Là, ça vient des États-Unis. Tout le monde a oublié Sandy, qui était quand même sur la côte est des États-Unis, qui les a mis sous pression. Bon, c'est pas simplement noyé New York. Il y a eu quand même 26 réacteurs qui étaient exposés. Alors, ils ont réussi à sauver la situation. Là aussi, vous voyez, donc, ça rattrape. C'est intéressant de regarder, au fond, quelles leçons sont tirées hein, de ces expériences. Et voilà. Alors, tout ça va produire des précédents. Là, je circule un peu dans des mondes différents, mais les questions environnementales sont multiples, multiformes, ont des temporalités extrêmement différentes. Et pour les acteurs, c'est très compliqué de faire passer des priorités et d'arriver à faire entendre une cause, etc. Par exemple, l'amiante. On pourrait considérer que l'amiante, quand même, c'est fini, quoi. C'est une vieille cause. C'est gagné. Voilà, ben non, pas du tout. D'ailleurs, même en Italie, où il y avait un procès qui avait réussi à condamner le patron d'Eternit, vous avez vu que les juristes ont réussi à utiliser la prescription pour faire sauter un travail de 10 ans de construction et d'instruction. Là, c'est en France, c'est la tour Montparnasse. On parlait des tours tout à l'heure. On n'aime pas les tours. C'est vrai que celle-là, elle est quand même symbolique. Elle est bourrée d'amiante. Et tous les ans, alors je n'ai pas encore l'explication, j'ai vu quelqu'un du CHSCT qui me dit « Ah ben c'est parce qu'il y a une réunion début septembre, en fait, ils relancent le truc. » Et tous les ans, au début de l'automne, vous avez une mobilisation pour rappeler la question de l'amiante. Et ça, c'est pour vous montrer que ce n'est pas que franco-français, puisque c'est vu de l'étranger, à Bruxelles. On regarde ce truc-là parce que ça peut relancer des chantiers un peu oubliés, hein, où les amiantages est long à venir. Donc, attention, ne croyez pas un instant que les dossiers s'arrêtent et que les causes, parce qu'on n'en parle pas dans les médias, on aura tout à l'heure une... Elles ont disparu. Elles resurgissent de manière extrêmement chaotique. Et le boulot que j'essaye de faire, c'est donc dans cette sociobalistique, c'est de décrire ces trajectoires. Alors, vous le trouverez aussi le même genre de sensibilité dans un rapport européen sur lequel je passe, qui s'appelle « Leçon tardive pour à partir de signaux précoces, précurseurs ». C'est comment, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a mis du temps à prendre au sérieux une question. Et ce qui est flagrant dans ce rapport, c'est le nombre de problèmes qui se sont accumulés. Hein, donc ça, c'est la partie méthodologie qui ne vous intéresse pas du tout. J'ai regardé dans tous ces dossiers, ces corpus, comment le changement climatique est utilisé par les acteurs. Et moi, mon problème, en fait, c'est de comprendre comment des acteurs qui s'occupent d'une question vont essayer de connecter, au contraire de dissocier, donc de converger ou diverger, c'était le titre que j'avais donné, faire converger ou faire diverger des problèmes. Parce que par moment, évidemment, climat et biodiversité, ça peut fonctionner ensemble. À d'autres moments, ça peut poser littéralement un problème de contradiction et mettre en face à face des acteurs qui auraient pu coordonner ou s'accorder. Et donc, en suivant ces processus extrêmement complexes qu'on a essayé de modéliser, vous trouverez des choses assez marrantes sur le web. On a mis beaucoup de choses en ligne, comme ça en free access. Je milite pour une science accessible directe sur le web et discutable. Allons-y. Ça ne marche plus, le peer reviewing. Là, j'en ai fait un récemment. J'ai mis le titre de l'article dans Google. Pouf, je savais qui c'était. Donc, c'est rare. Par contre, celui qui a remis critique est censé ne pas savoir qui l'a critiqué. Mais en fait, un jour, je vais le croiser. Il va dire, ah, je me suis fait casser mon texte. J'ai dit, ah bon, par qui? Enfin, oui, la mauvaise foi. Non, faisons une science ouverte et on y gagnera tous. Donc, vous trouverez des choses sur le web autour de ces modèles. Je passe vite. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça rebondit. C'est pas linéaire et ça va surtout convoquer ces milieux. Ces milieux qui vont réagir, en fait, par exemple, à la question des OGM, à la question des pesticides, à la question du nucléaire, etc. Le vrai modèle, c'est Gaston Lagaffe. Donc, ce n'est pas linéaire, ça veut dire que c'est compliqué à décrire. Hein. Parce que décrire cette balistique-là, si vous voulez, bon, là, c'est le chat qui récupère la balle. En fait, il y a toujours qui peut la récupérer in extremis. Vous n'êtes jamais sûr de la clôture du processus. Qui va finalement bénéficier d'eux? Si vous interdisez un produit, c'est peut-être les concurrents qui bénéficient de l'affaire, voyez. Donc ça a peut-être été calculé pour faire interdire je ne sais quel produit chimique au bénéfice de l'autre. Voilà. Et bon, le modèle un peu plus sérieux, c'est celui qui est en dessous, on va dire, plus mathématisé, où on regarde les points d'inflexion, les points d'irréversibilité. Vous voyez que la question de l'irréversibilité dans la question climatique, elle est centrale depuis le début. C'est on franchit des points, des turning points, des tipping points, etc. Alors, un point qui est important, c'est que les causes portées par les acteurs n'ont pas de format prédéfini. Chaque cause va créer son univers. Je pense au gaz de schiste, qui est assez, etc. Le no-gazaran, par exemple, c'était une manière d'introduire la résistance dans des zones où on aurait pu ne pas s'y attendre, etc. Vous allez avoir toutes sortes de choses. Alors, je passe vite. Les OGM, là, c'est la patate OGM. Donc là, c'est ce qu'on appelle les activistes dans les services de renseignement. Et puis maintenant, dans les traités de sociologie rapide, activistes, pour être compris, dans les colloques, on n'a que 15 minutes, vous dites activistes. Mais bon, en fait, quoi, activistes, quoi. Enfin bon, ceux-là, par contre, ils ont fait une performance pour rendre visible la relation entre la chimie et l'alimentation. Donc c'est assez, vous voyez. Donc chaque cause produit son phénomène. Là, c'est les singes du futur. Vous les avez sûrement vus surgir. Si vous n'avez pas vu, ils dénoncent la biologie de synthèse. Donc si vous ne vous transformez pas avec la biologie de synthèse, vous devenez des singes, c'est-à-dire que vous régressez dans l'arbre darwinien que les nouvelles technologies sont supposées prolonger, puisque vous restez finalement des humains. Donc c'est une forme très intéressante. Là, on revient au climat, vous l'aviez vu. Autre forme, c'est mettre la tête dans le sable, donc c'est en Australie. Donc chaque cause va multiplier. Donc on a tendance à traiter ça de manière anecdotique, comme des moments, etc. Mais au contraire, ça montre que chaque cause fait son travail d'essayer d'exprimer les choses et que ça passe par des trajectoires inattendues, etc. Alors j'en viens au milieu. C'est important parce qu'on a tendance à dire le local, bah oui, c'est petit, c'est les intérêts, c'est les machins, le général, c'est grand, c'est important, etc. Mais non, dans le local, il y a au moins, pour moi, quatre choses importantes. D'abord, c'est le lieu de l'expérience. C'est là où les expériences se déploient. Et c'est important de faire l'expérience des choses, évidemment. Parler de la forêt sans jamais aller dans la forêt, il y en a qui le font peut-être, mais c'est compliqué. Donc il y a au moins quatre redéfinitions du local qu'il faut défendre. C'est un point d'impact, le local. Ça peut être un événement, c'est associé à un événement. On parlait ce matin de la mémoire, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites Tchernobyl, ben, effectivement, vous avez un lieu qui est nommé, etc. Et partout, à toutes les échelles, vous avez des lieux. Ensuite, vous avez sanctuarisation, patrimonialisation. Je ne sais pas, là, il y a des débats à n'en plus finir. C'est-à-dire que c'est voilà, un parc naturel, c'est une aire marine protégée, c'est un centre historique, peu importe. Moi, je rentre pas dans le détail à ce niveau-là, mais je veux dire que le lieu peut être complètement transformé par, symboliquement et marqué. Etc. Ensuite, le lieu, ça peut être le point de ralliement. Le barrage de Sivens, visiblement, c'était aussi un point de ralliement, comme Notre-Dame-des-Landes était un point de ralliement, comme Burs dans la Meuse est un point de ralliement. Donc, c'est-à-dire que le lieu devient aussi un point de transformation des rapports entre les causes. Très important, comme le Larzac l'a été à une époque. Et l'habité, c'est-à-dire le lieu comme expression des formes de vie, des formes d'habiter. Là, il y a beaucoup d'anthropologues, parce que les anthropologues sont beaucoup intéressés aux questions climatiques, mais du point de vue, évidemment, de ceux qui habitent, de ceux qui sont là, des indigènes, des peuples autochtones, etc., des Inuits, tout ce que vous voulez, qui vont justement avoir une forme de représentation de ce qui se passe dans leur milieu, complètement, parfois radicalement différente de celle qui... Alors, ça donne des choses comme ça, c'est-à-dire que moi, dans ma sociologie, je ne préjuge pas de l'importance des points. Par exemple, ça, c'est un petit corridor à Montréal où on nous dit que là, ce petit espace public vert a été créé par les habitants. Évidemment, il est menacé par un projet immobilier. Ça commence une petite cause. Ça peut se transformer en émeute urbaine, j'en sais rien. Je sais pas. C'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur les écoquartiers. C'est là où la ville se réinvestit. C'est des petites choses, mais des petites choses qui se fédèrent, qui peuvent se transformer en combat. Alors, parfois, ça peut prendre des formes plus systématiques. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est non à l'aéroport et à son monde. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement l'aéroport qui pose problème, en fait. Quand on va voir les acteurs qu'on discute, c'est le monde qui va avec. C'est tout ce que ça va impliquer comme infrastructure, comme type de public, comme rapport au temps, au monde, à l'avion, etc. etc. Bon, on pourra revenir. Et vous voyez, je me déplace et finalement, on a une casuistique mondiale de ces lieux qui sont investis comme des lieux de friction. Là, c'est Belo Monte, qui est un cas évidemment emblématique, qui a beaucoup ressurgi à Rio plus 20. Et, voilà. Et celui-là, je l'aime bien parce que j'ai un peu enquêté à Villeneuve-de-Berg, je connais bien l'Ardèche. Et donc là, c'est un choix de la municipalité. Hein. Vous avez donc la police municipale, l'hôtel de ville, et au milieu, non au gaz de schiste. C'est au même niveau. Vous voyez que le lieu se marque et se construit, et la cause est présente, elle est inscrite. Quand vous passez à Villeneuve-de-Berg, c'est toujours là. Hein. Donc, ça, j'en déduis un certain nombre de propriétés. Les milieux sont irréductibles. Donc, vous pouvez toujours essayer de faire tourner des modèles, essayer de les calculer, parce que c'est un des problèmes du GIEC. C'est de projeter tout dans un espace de calcul. Et on va y venir, c'est dans la discussion. C'est irréductible. Et quand ils sont réductibles, ça veut dire qu'ils ont été transformés en dispositifs. Et un dispositif, c'est extrêmement vulnérable, parce que c'est justement incapable, c'est artificialisé. Donc, ça va avoir du mal à se déplacer et à se... Je sais bien que sur les robots évoluent aujourd'hui. Mais enfin, bon, même le robot qui est actuellement sur la comète, avec une patte en l'air... Bon, sa durée de vie, on le sait, est limitée. Il est quand même très dépendant du système technique. Et là, on retrouve Jacques Ellul, qui est quand même un des fondateurs de l'écologie politique. Alors, un exemple. Des milieux irréductibles. On travaille sur le nucléaire. Eh bien, le nucléaire, évidemment, il est en prise avec des milieux. Ce serait trop beau si vous mettiez des centrales nucléaires purement calculées. Vous voyez, à l'école des mines, paf, au CEA, ils ont calculé leur centrale, aucun risque. D'abord, Fukushima vient de montrer que c'était beaucoup plus systémique que ça. Et ensuite, constamment, des échanges avec des milieux. Là, c'est les méduses qui rentrent dans les tambours de refroidissement. La biodiversité, ça peut, quand ça commence à être perturbé, ça peut produire des choses. Évidemment, le réchauffement des eaux dans les centrales côtières, ça ne laisse pas les choses en état. Il y a des algues qui aussi surgissent. Alors, méduses, des algues, du vivant, du... La Gironde, puisque je travaille beaucoup sur ce secteur, d'où l'intérêt que j'avais pour l'exposé de Hervé sur l'Aquitaine. Et non, c'est les écrevisses qui se mettent à proliférer et qui vont venir modifier complètement la composition. Ce qui fait que les pêcheurs qui avaient leurs propres indicateurs, etc., sont perturbés par une autre espèce invasive. Bref, des signaux qui vont affecter les mondes, les milieux. Donc là, je finis d'illustrer ce que Hervé avait présenté ce matin. Là, c'est le signal. Alors, c'est vraiment, on ne pouvait pas trouver mieux. Hein. Voyez le recul de côte de 40 mètres. Le trait de côte, concept. Alors moi, je travaille sur la zone qui est de l'ensemble de l'estuaire. Et évidemment, ce qu'a oublié de dire ce matin Hervé, d'où peut-être la question sur le nucléaire, c'est qu'il y a une centrale qui a les pieds dans l'eau et qui a déjà été inondée, sérieusement, en 1999. Ça a été mais vraiment l'alerte rouge. Hein. Alors les réacteurs ont été arrêtés, mais enfin, il y avait de l'eau dans les bâtiments. Ça a été quand même... Il y a un gros rapport parlementaire, si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Là, je vois qu'il me reste 5 minutes, c'est ça. Oui, bon, j'ai presque fini. Ouais. Donc, vous voyez que là, c'est Greenpeace qui fait le coup, là, qui sort un truc, qui zoome sur un territoire et qui dit voilà les problèmes. Évidemment, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Le château Lafitte, château Margaux, Saint-Estèphe. C'est-à-dire qu'ils commencent à jouer sur le risque de réputation et d'image. un accident nucléaire dans cet endroit-là, terminé le Médoc, terminé... Bon. Donc là, je passe, puisque je me suis beaucoup intéressé à la manière justement dont a été construit le rapport d'Hervé. Donc, il faut qu'on on organise une journée de confrontation. Comment les acteurs de terrain l'ont lu, ont participé ou pas, qu'est-ce qu'ils y voient. Et vous voyez qu'il dit, nous n'avons pas non plus cherché à documenter plusieurs problèmes liés à des enjeux technologiques, qui auraient des compétences nous manquées, etc. Mais par exemple, évidemment, les installations nucléaires qui ont besoin d'eau, etc. Donc, le problème du cadrage... Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, la manière dont le problème est cadré, évidemment, produit des effets considérables. Alors, je passe très vite là-dessus. Les institutions essayent de réagir à ça et d'incorporer dans leur dispositif cette diversité de problèmes. Et aux États-Unis, la Californie est toujours à regarder, parce qu'en Californie, il y a toujours des initiatives assez intéressantes, notamment la citizen-based science, c'est-à-dire la manière de faire entrer des citoyens, des communautés, en l'occurrence, dans leur langage, dans la production de l'expertise, là, de l'évaluation des risques environnementaux. Et ils travaillent maintenant ensemble sur les impacts cumulatifs, c'est-à-dire comment des populations se retrouvent prises dans des stress multiples, pesticides, pollution de l'eau, sécheresse, transport routier, zones chimiques, etc., etc. Et donc, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que le changement climatique pris par les milieux, évidemment, ça va obliger à inventer localement plein de solutions. Elles ne vont pas descendre du ciel. Ici, dans le cas d'EDF, ce qui est intéressant, vous voyez, là, on la prend à ras de... On est dans ce qu'on appelle un bouchon vaseux. Ce n'est pas vaseux, ce que je dis. C'est-à-dire qu'en fait, la Gironde étant le résultat de la Garonne et de la Dordogne, plus l'apport de la mer, on est de l'océan, on est dans une zone extrêmement étonnante d'un point de vue biologie marine. Et en fait, pour les réacteurs et le circuit de refroidissement, c'est un vrai problème. Et donc, en plus, il y a un risque de submersion qui vient compliquer les choses, parce qu'il faut quand même constamment évacuer l'eau, la faire... C'est une zone de marécage, et aujourd'hui, plus personne ne construirait une centrale nucléaire dans ces conditions. Donc on voit bien qu'il y a quand même des transformations au fil du temps. Et je vous renvoie à un très beau texte d'un collègue anthropologue, Augustin Berg, qui est spécialiste du Japon, qui a beaucoup travaillé sur le milieu, justement, si vous voulez approfondir cette notion de milieu. Donc c'est en japonais le fudo. Fudosei, qui est, alors c'est pas l'oseille parce que moi je suis périgordin, mais c'est le fudosei, c'est l'art de se couler dans le milieu et de vivre avec les choses. Donc je finis rapidement là-dessus, parce qu'en gros tout ça va poser des problèmes politiques, c'est-à-dire comment se séparent ou s'associent, entrent en conflit ou non des acteurs autour de biens, autour de valeurs, autour de commons, comme on dit, autour de biens, de choses communes. Et finalement ça nous amène à un schéma qui est assez intéressant, que je n'aurai pas le temps de développer, et je finirai sûrement là-dessus. C'est qu'on a tendance à tout ramener à un affrontement entre deux blocs idéologiques. On aurait le néolibéralisme techno-scientifique qui envahit la planète. Puis en face, on aurait des haltères qui essaieraient de construire l'écologie politique, l'expertise citoyenne, etc. Et au milieu, il y aurait cette bagarre sur la définition de l'économie verte. Mais là, on voit bien que si on n'est qu'à ce niveau-là, il y a deux processus qu'on ne comprend pas. C'est comment les risques sont cartographiés, gérés, codifié, procéduralisé, ça c'est le carré. C'est-à-dire vous dites, voilà, procédure, le nombre de fibres par litre pour l'amiante, le nombre de particules fines du diesel par habitant, le machin. Donc vous essayez désespérément de tout mettre en calcul, et cette espèce d'émergence continue et chevelée que j'ai montré tout à l'heure, de nouveaux problèmes qui circulent de manière chaotique, qui parfois évidemment retombent. Il y en a un qu'on étudie en particulier, c'est le mercure dans les plombages dentaires. Alors, celui-là, ça fait longtemps qu'il chemine. Mais à chaque fois qu'il arrive à la porte de la stabilisation, il doit se passer quelque chose, là. Bon, on va dire le lobby des dentistes ou des je ne sais pas quoi. Bon, peut-être, on ne sait rien. En tout cas, ça oblige à penser ces confrontations. Et vous voyez que le plan des milieux entre du coup dans le modèle sociologique. Vous avez deux formes. Un milieu sous contrôle, d'une certaine manière, d'une entité. Ça peut être une mafia, ce n'est pas forcément EDF que je cite, là. Mais vous avez un centre. Et c'est de manière concentrique, le milieu quand même est défini par cette entité. Et puis des formes beaucoup plus tordues. Donc sur la forêt, ben, il y a des chasseurs, il y a des cueilleurs de champignons comme moi. L'autre jour, je me trouve nez à nez avec un chasseur, il me fait boum comme ça. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, je cherche les champignons, vous cherchez le sanglier. Je l'ai vu passer, il était derrière, c'est trop tard, il est de l'autre côté. Conflit d'usage, classique. Milieu hétérogène, bon... Ça reste sympathique, mais enfin, lui, il est armé, pas moi. Bon, donc là, ça bouillonne les interactions. Et les acteurs que vous allez avoir tendance à rejeter comme des gauchistes, extrémistes, casseurs de flics, en fait, ils ne sont pas tous idiots. Et quand on va les interroger, ce qu'ils veulent, c'est remettre de la diversité et de l'interaction entre les milieux hétérogènes et vivre ça. Alors, non, au milieu de la ville, un squat, ça ressemble à rien. Moi, j'ai suivi la fin d'un squat là, dans le nord de Paris, qui s'appelait le Transfo, qui était habité depuis des années. Là, il a été évacué, manu militari, etc. Ils avaient raté leur coup avec les journalistes, il n'y avait personne. Voilà. Bon, bref, vous voyez que ces oppositions deviennent très concrètes et que le rôle de la sociologie, ça va être de redéployer, de redécrire toutes ces opérations pour précisément sortir de cette vision un peu simpliste où on a notre vision commune d'un côté qui est énoncée en fait par des porte-parole gouvernementaux dans les cercles onusiens, our common vision. Bon, on a tous été invités à participer d'une certaine manière, mais enfin bon, quand même, c'est codifié, on voit bien comment ça se passe. Et de l'autre, une version un peu, pas paranoïaque, mais un peu construite par des groupes politiques. Alors vous avez les accélérationnistes qui déboulent, vous allez en entendre parler. Ah ben c'est des néo-léninistes qui disent le néolibéralisme triomphe, c'est une bonne chose, prenons le pouvoir. C'est-à-dire qu'au lieu de détruire la plateforme techno-marchande et informationnelle du capitalisme actuel, on prend le pouvoir dessus, c'est exactement ce que disait Lénine. Et on élimine tous ces petits haltères qui essayent de construire des machins qui sont en train de distraire la cause écologique. Voilà, donc tout ça a conduit à des bagarres sur l'expertise, je passe. Ça devient très concret. Mais ce qui compte là-dedans, et je finis là-dessus, c'est comment les citoyens peuvent à un moment donné surgir et faire entendre une parole. Il y a plusieurs formes. En tant que sociologue, je n'ai pas à choisir s'il faut aller au tribunal, s'il faut aller dans les débats publics, s'il faut aller dans la rue, s'il faut occuper des lieux, s'il faut s'inscrire à un cours de biologie marine, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou entrer dans les dispositifs de recherche participative. Mais ça surgit de partout et effectivement, il y a des indicateurs forts. Alors, je ne sais pas, quand on disait que le public va se ressaisir des questions et va faire bouger tout ça, c'est une version optimiste. En tout cas, il est là déjà. Il est déjà engagé dans plein de processus. Par exemple, la conférence de citoyens sur les déchets radioactifs, tout le monde pensait que ça serait un flop intégral après le débat public assez calamiteux de 2013. Eh bien, lisez l'avis des citoyens, il est subtil, il produit de vrais déplacements et l'ANDRA doit en tenir compte. En exigeant un pilote, en raisonnant de manière très intelligente sur en disant les générations futures, mais ce n'est pas un bon argument. On est déjà des générations futures du nucléaire. Ça, par exemple, personne ne l'avait jamais dit. Donc, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Donc, les citoyens qui surgissent, ça peut produire des choses. Bon, je finis. Voilà. Après, c'était un peu des trucs de sociologue. Je voulais juste revenir là-dessus, puisque Hervé l'a montré tout à l'heure, mais il a un peu caché, en fait. Le GIEC, à un moment donné, dans un de ses derniers rapports, nous sort un truc comme ça. On va finir là-dessus parce que vous avez le paradis et l'enfer. Regardez comment c'est fait, c'est magnifique. En haut, c'est le paradis, vert. En bas, c'est l'enfer, rouge. Et vous avez deux états intermédiaires, une planète chaude mais fréquentable, et une planète chaude mais vraiment difficile à vivre. Et vous voyez, vous avez des embranchements, donc les chemins pour aller soit vers la résilience forte, soit vers la résilience faible. Et à chaque fois, vous avez trois personnages. Pourquoi trois? Parce que c'est le début de la démocratie. Vous avez une majorité. Et en même temps, vous avez un réseau. Pour faire un réseau, il faut au moins trois points. Dans les deux points, c'est difficile. Je sais pas, il y a sûrement des matheux dans la salle, mais faire un réseau avec deux points, c'est assez difficile. Avec trois, vous commencez un réseau ouvert, réseau fermé, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette idée qu'à un certain moment, on va prendre des décisions collectives et qu'on va aller soit vers l'enfer, vers le paradis, mais ça pose un problème majeur par rapport à tout ce que j'ai dit. C'est que tout ce que les milieux sont capables de produire comme alternative, comme trajectoire différente, c'est évacué au profit d'une destination qui est déjà fixée, qui est quasi biblique, quoi. Et donc, là, on voit la science quand même utiliser, alors sûrement il y a un cabinet de communication derrière, procédures sémiotiques, enfin d'image qui joue quand même sur des représentations religieuses très fortes. Voilà. Merci en tout cas de votre attention. Les faux pas de charge, hein, désolé. Ça va. Mais on peut tout rediscuter.
Non. Alors, oui, monsieur.
Bonjour. Je suis à la fois un peu pris par l'ensemble des informations. Pour moi, c'est un fouillis. Enfin, je découvre. J'interviens en tant que plutôt activiste. Et j'avoue que j'ai pas été très très convaincu par le fait de mettre l'anthropocène à la trappe avec une pirouette, parce que pour moi ça évoque quand même disons une controverse peut-être, mais quand même quelque chose qui est lié à la stratigraphie, à une recherche sur placer notre actualité dans une échelle géologique. Et le fait par exemple de la sixième extinction massive, j'en ai pas entendu parler, mais pour moi ça n'est pas par des pirouettes qu'on retricote une biodiversité qui est en train de s'effondrer à très grande échelle. Donc est-ce que parce que ça nous dépasse, on doit ne s'occuper que du local, ou est-ce que tout de même une analyse globale avec des effets de métastables. Enfin, moi, j'ai entendu parler de certains chercheurs qui disaient qu'à certains moments donnés, on se retrouvait sur des points de non-retour et que donc on ne savait pas à quel horizon ça se situait, mais que le monde après ce point de non-retour ne serait plus le même. Il faut quand même savoir en débattre de façon citoyenne. Enfin, il me semble.
Absolument. Non, mais j'ai pas du tout fermé cette question de l'anthropocène. Au contraire, ce que je dis simplement, c'est comment la décliner au pluriel pour que précisément elle puisse être saisie par des acteurs extrêmement hétérogènes. Vous ne pouvez pas arriver et là j'ai pris des exemples européens ou assez faciles, mais dès qu'on discute avec des géographes ou des anthropologues qui vont dans des localités extrêmement hétérogènes, à chaque fois il faut repartir d'histoires, de versions de l'histoire qui sont radicalement différentes, qui ne peuvent pas être simplement calculées par une version du temps géologique qui est très, très dissociée du temps du temps de l'action, ne serait-ce que du temps de l'action au sens, je dirais, presque Hannah Arendt, là, du temps politique, de ce que je peux faire, de ce que nous pouvons faire, là, ici, dans nos mondes. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que sinon, il y a un risque, c'est pour ça que j'ai parlé du catastrophisme, c'est un risque, je ne dis pas que ça conduit fatalement à ça, mais quand on lit les usages qui sont faits de Crutzen et de toute la littérature qui va avec, il y a une tendance à en rajouter dans la fatalité de la pente. C'est-à-dire de dire, effectivement, on passe des points d'irréversibilité, on y va, on va dans le mur. Et du coup, en faisant ça, on enlève des possibles que les acteurs peuvent construire. Alors, tricoter localement, finalement, pour un sociologue, ce n'est pas si méprisable que ça. C'est déjà pas mal quand des acteurs arrivent à conquérir des prises, parfois sur des micro-mondes, à obtenir un espace pour une association dans une zone urbaine, à construire, à faire déplacer légèrement un projet technologique, à le freiner, à le mettre en question, etc. Moi, c'est de là que je pars. Après, sur les espaces ouverts ou fermés de l'avenir de la planète, je ne fais que restituer, en tant que sociologue, en tant que citoyen, j'ai d'autres idées. En tout cas, elles ne sont pas directement impliquées par la sociologie. Je ne fais que restituer ces grands récits, ces grands discours qui sont produits en disant attention, il faut les mettre en rapport avec les pratiques et ce que font les acteurs. Sinon, on va avoir des dispositifs qui vont être vécus comme des systèmes de pouvoir décrits par Foucault. Quoi. C'est-à-dire que vous allez disciplinariser les gens par un gouvernement mondial justement pour mettre de l'ordre dans tout ça et faire tenir les dispositifs. Voilà, c'est un peu cette mise en garde. Mais je suis d'accord, il faudrait plus de temps pour passer d'un point à l'autre.
Oui, bonjour Jean-Baptiste Combib, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, je trouve que c'est très intéressant, sur ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les grands projets inutiles et imposés, la GP2I. Oui. Donc le Notre-Dame-des-Landes, Sivens, Bure, bon, il y en avait d'autres. Hein. Alors bon, il est de bon ton de parler du Sud-Ouest, moi je suis béarnais, donc voilà, chez moi, et c'était le tunnel du Saint-Port, donc ça date de
oui, quelques décennies.
Bon, mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ces GP2I, c'est l'articulation justement entre le local et le global, hein, puisqu'on trouve sur Internet des cartes de tous les grands projets inutiles imposés sur l'ensemble de la planète. Et pour avoir aussi fait de l'observation ethnographique à Notre-Dame-des-Landes, ce qui m'avait frappé, c'était l'internationalisation, enfin la présence de beaucoup d'étrangers, d'activistes étrangers, professionnels de la résistance, qui venaient former, notamment, qui venaient expliquer que bon, c'était bien gentil de faire la fête le soir, etc., mais que c'est pas comme ça qu'on allait être efficace face à des forces armées qui se renouvellent, etc. Bon, et effectivement, ce qui est fascinant dans ces lieux-là d'expérimentation sociale et politique, c'est précisément l'imagination, l'inventivité, la sensibilité extrêmement diverse, à la fois politique, à la fois au rapport à la vie collective, etc. Et il y a là un creuset extrêmement riche et qui contraste énormément avec l'image qui en est donnée, évidemment, dans les discours médiatiques, politiques dominants. Et donc, ma question, c'était de savoir comment vous... En même temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activistes de différents pays. Et en même temps, je m'interroge quand même sur la véritable internationalisation de ces mouvements. Donc j'aimerais avoir, je ne sais pas si vous avez des éléments là-dessus.
Oui, j'ai des éléments, mais c'est vrai que là, pour le coup, il faut revenir dossier par dossier. C'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de serrer les choses. Dans le cas des OGM, il y a une internationale anti-OGM qui s'est constituée, qui est passée par des mouvements paysans, Via Campesina ou d'autres mouvements. Ça a pas mal été étudié. Et c'est devenu même d'ailleurs une des causes un peu exemplaires pour l'altermondialisme à un moment donné, ce qui fait qu'elle a eu des effets rebonds, y compris en France. C'est-à-dire qu'il y a un moment altermondialiste d'ailleurs dans la cause OGM en Europe. Et ça va prendre très différemment selon les contextes nationaux, les zones, évidemment. Actuellement, c'est en Colombie, par exemple, où il y a un réveil des paysans après 15 ans de guerre civile où ils étaient évidemment étouffés par une situation qui était invivable entre les FARC, l'armée et puis les paramilitaires et les mafias. Ça faisait quand même beaucoup de gens qui venaient vous piquer vos ressources. C'est-à-dire, en gros, ça tournait. Hein. Ils ne savaient jamais lesquels arrivaient. Un jour, c'était les paramilitaires. Le lendemain, c'était la mafia. Le troisième jour, les narcos. Le troisième jour, c'était les mêmes mais qui étaient devenus narcos alors qu'ils étaient paramilitaires. Et puis après, c'était les FARC qui étaient eux-mêmes narcos. Enfin bon, confusion. Là, aujourd'hui, il y a effectivement, sur la question des OGM, un mouvement qui se structure. Donc, ça veut dire qu'il y a eu organisation de référents, de précédents, d'appuis, de catégories d'action. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. Alors, après, pourquoi sur le nucléaire, par exemple, ça prend beaucoup moins ? Il y a eu pas mal de franchissements de frontières, on va dire, France-Allemagne, du fait du transfert des déchets. Donc, c'est en suivant les objets que certains acteurs se déplacent. Mais ça n'a pas du tout la même allure que sur les OGM. Donc c'est intéressant de voir les variations. Alors on peut l'expliquer aussi par l'emprise des milieux, c'est-à-dire que le monde paysan qui résiste à certains types d'industrialisation de l'agriculture va retrouver des propriétés communes qui sera plus difficilement transposables dans d'autres affaires. En même temps, quand arrive le gaz de schiste en France, en gros novembre 2010, on a vérifié, personne ne savait ce que c'était. Enfin, en tout cas, dans l'espace francophone français. Parce qu'au Québec, c'était déjà parti un peu. Alors qu'aux États-Unis, c'était déjà lancé. Et il y avait déjà d'ailleurs des procès même. Et ça arrive chez nous, en gros, par le groupe Cap 21, le PAGE. Et puis, ça tombe sur Veillerette, qui a une maison dans l'Arzac. Et ça croise Beauvais et ses amis. Et en fait, tout le réseau anti-OGM a été réactivé. Mais ça n'attendait pas du tout à trouver des alliances chez les élus locaux, y compris là des élus toutes couleurs. Et on a eu des mouvements, par exemple en Ardèche, une manifestation de 15 000 personnes, ça a été jamais vu, d'où la trace de 2009 que j'ai montré tout à l'heure. Et en fait, donc on a des coalitions d'acteurs, des alliances qui peuvent se former et qui sont assez improbables à certains moments. Sur le cas de l'amiante, par exemple, il y a Ban Asbestos, qui est une ONG internationale, qui se bat beaucoup pour faire attention que l'amiante ne soit pas renvoyée évidemment vers les pays du Sud, qui a eu des victoires, notamment avec l'Inde, quand l'Inde a refusé de désamianter le Clémenceau. Ça a été un moment assez intéressant, le fameux porte-avions français qui était bourré d'amiante et qui finalement, c'est les Anglais, je crois, qui le font. Enfin, bon, il a fait le tour du monde avec son amiante. Il y a eu une décision de la Cour suprême, mais ça a été un travail, là aussi, d'une ONG transnationale. Donc, il y a des ONG, il y a des réseaux scientifiques, il y a des objets qui créent les relations, et il y a des lieux. Donc, ce lieu, c'est effectivement le point de ralliement où, tout à coup, se rencontrent des cultures critiques extrêmement différentes. Voilà, je réponds vite, mais je trouve que c'est important de... Alors, ça varie considérablement, effectivement, selon les sujets.
Moi, j'aimerais bien dire quelque chose.
Vas-y.
Parce que je suis prisonnière de ma place de président.
Ben, c'est le but.
Voilà. Moi, il me semble que nous sommes tous, les uns et les autres, un peu pris dans une tension qui est celle de la complexité du réel et pour chaque cause... les frontières entre les différents groupes, les acteurs, etc., sont pas toujours tout à fait les mêmes, et les coalitions sont pas les mêmes, etc. Et donc, toi, tu passes de l'une à l'autre, et ici, tu parles plein d'exemples très différents. Et puis, en même temps, et donc, tu fustiges, d'une certaine façon, méchamment, toute typologie trop simpliste, mais je ne pense pas l'avoir faite en ce qui me concerne.
Je t'ai pas vu.
C'est-à-dire, par exemple, tu dis le néolibéralisme plus les scientistes contre les activistes, tout ça, c'est trop sommaire, et ça, je suis bien d'accord, c'est trop sommaire, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais néanmoins, on est obligé face à une question. Et là, c'est le climat dont on parle principalement aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire des frontières, absolument pas. Mais quand même, dans le champ d'une certaine question qui mobilise des acteurs, des débats, des arènes, etc., de savoir quelles sont les grandes structurations, les grands clivages, les grands positionnements, etc. Sinon, on n'arrive pas à agir. On est tout le temps en train de dire oui, mais etc. Donc, c'est simplement une remarque. C'est-à-dire, je crois qu'on est pris dans cette tension entre l'attention à trop de complexité qui un peu paralyse toute façon de saisir le réel, de pouvoir agir sur lui et puis de l'analyser, tout simplement. Et puis des simplifications qui seraient abusives et complètement sommaires. Donc voilà.
Non, mais c'est très juste, et c'est bien pour ça que j'essaye de me donner des instruments pour suivre les processus et les décrire, au moins avoir déjà un instrument de description qui permet de repérer par où ça passe, pourquoi tel dossier, ou telle cause, telle question vient croiser une autre à un moment donné, comment se fait le croisement, est-ce qu'il est fécond, est-ce qu'il va créer justement de nouveaux conflits, et surtout de ne pas avoir de vision du futur à la place des acteurs. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de téléologie, mot barbare utilisé par les philosophes depuis longtemps, c'est-à-dire que je ne crois pas un instant qu'il y ait un centre de calcul qui ait une visée et qui sache où il va. Et je vais prendre l'exemple de la guerre en Irak que j'ai beaucoup suivi. On peut dire que la CIA avait calculé l'État islamique enfin, il faut arrêter. Il y a des situations de turbulence qui viennent se mêler du fait d'intervention sur des terrains. On n'a pas beaucoup parlé des guerres, alors que je sais bien que François Hollande dit que la vraie guerre, c'est celle contre le climat, mais là, c'est un peu quand même de la rhétorique. Parce que si on fait le bilan carbone, ne serait-ce que de la guerre en Irak, ça va être difficile de donner des leçons aux gens sur leur déplacement en avion ou en bagnole, etc. Parce que c'est lourd et c'est pas fini. Et donc, quand je parle de l'Irak, il faut rajouter évidemment tous les autres effets domino, puisqu'on a aussi, tant qu'à faire, complètement lâché prise sur l'Afghanistan. Qui était en 2002, quand vous lisez les textes sur l'Afghanistan, c'est une affaire réglée. Et d'ailleurs... commencer à venir des textes pour comprendre c'était un bel intérêt stratégique des Américains de s'installer là-bas pour des histoires de terres rares, de machins, etc. En fait, ils ont complètement lâché prise. Donc on voit que c'est suivre ces processus, c'est-à-dire avoir une entrée par les processus, s'enfermer la description et effectivement faire confiance localement à tout ce que les acteurs, depuis leur expérience, peuvent prendre de tout ça dans l'action. Et c'est pour ça qu'il y a une... D'ailleurs, dans le pensée globale, il y a bien derrière agir local. Et donc il y a bien ça, quand même cette intuition philosophique qu'il faut être quelque part pour agir. Et que l'action à distance, effectivement, risque de produire des effets pervers, dont la guerre en Irak est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et y compris d'ailleurs des résolutions qui peuvent être vertueuses dans les textes et qui, en fait, dans les pratiques, sont complètement détournées. Tous ceux qui ont travaillé sur la corruption connaissent bien ce genre de problème. On a quand même beaucoup d'institutions internationales qui ont essayé de chasser ce phénomène. On a aussi travaillé sur le dopage. On a publié une belle thèse qui s'appelle « L'institution mondiale du dopage » pour parler de l'Agence mondiale antidopage. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de régulation et paradoxalement, plus il y a eu d'affaires de dopage. L'affaire Armstrong n'est qu'un exemple. Donc on voit bien qu'il y a... La performativité de l'action elle-même est en question. On ne peut pas la supposer... à un endroit, quoi. Il faut pouvoir circuler. Et c'est bien la difficulté de cette sociologie. Donc je suis d'accord avec toi. Hein. Ne restons pas dans les récits trop simples ou ne perdons pas dans une complexité. Essayons de construire des instruments pour suivre les transformations.
Merci. On va peut-être s'arrêter. Ouais. Merci. Voilà. Donc on va reprendre dans un